RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.
Stephen Brun.
Salut à tous, c'est Stephen Brun pour votre émission préférée, le Stephen Brun, chaque dimanche de 13h à 15h sur RMC. On est là pour vous accompagner durant les vacances, on vous a préparé le meilleur de la deuxième saison du Stephen Brun. Allez, c'est parti. On ouvre la parenthèse basket, Alex.
Absolument. Il vient de boucler sa 13e saison en NBA, éliminé en demi-finale de conférence Ouest par les San Antonio Spurs. Le pivot de l'équipe de France et des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, nommé dans le meilleur 5 défensif de la saison en NBA, revient dans le Stephen Brun sur ses duels avec Nikola Jokic, le pivot serbe, Victor Wembanyama, bien sûr. Sa relation très proche en tant que mentor de la superstar du basket français, mais aussi sur ses prochains objectifs avec l'équipe de France et les JO 2028. En ligne de mire à Los Angeles, entretien réalisé hier après-midi et donc avant le match 7 entre San Antonio et Oklahoma City. Rudy Gobert est l'invité exceptionnel du Stephen Brunch.
Salut Rudy.
Salut.
Salut Rudy.
C'est la traditionnelle tournée des médias français après ta fin de saison avec Minnesota. Une saison qui s'est arrêtée en demi-finale de conférence contre les Spurs 4-2 après avoir battu Denver au premier tour. Vous sortiez de deux finales de conf avec Minnesota. Avec quelques jours de recul, quel est le bilan que tu fais de cette saison collective?
Écoute, il y a énormément de positifs. Bien sûr, l'objectif c'était le titre. Quand tu finis court sur ton objectif, il y a de la déception, mais il y a toujours des très belles leçons. Et moi personnellement, bon, déjà la santé, c'est ce qui compte avant tout. Donc c'est une très bonne saison à ce niveau-là. Et puis des très belles choses, des très beaux souvenirs. Maintenant, il faut continuer d'apprendre et puis essayer de revenir encore plus fort la saison prochaine.
Ça, c'était le bilan collectif. Il y a un bilan individuel aussi avec toi qui est encore une fois très bon, puisque tu es encore le 8e fois dans le meilleur 5 défensif. Il y a des jolis noms avec toi, hein, avec le chiffre 8, Kobe, Jordan, Gary Payton, Kevin Garnett. J'imagine que, je ne sais pas si tu es satisfait de ça, mais voir ton nom à côté de Jordan et de Kobe Bryant, j'imagine que c'est un énorme accomplissement quand même pour un mec comme ça qui joue à NBA.
Un mec de Saint-Quentin,
formé par Jean-François Martin à Cholet. Non, mais c'est énorme, non?
Bah écoute, je sais pas si je réalise vraiment.
Ça viendra plus tard.
J'espère. J'apprécie le moment. Je suis vraiment concentré à chaque fois sur comment aider mon équipe à gagner, tout simplement. Et quand tu regardes le chiffre, 8 first team, 9 all defensive team, il faut que je prenne le temps quand même d'apprécier quand même ça et d'essayer de réaliser un peu.
T'as fait une série contre Denver au premier tour qui est énorme, parce qu'il y avait le duel Jokic-Rudy Gobert et très honnêtement, on a rarement vu un garçon être capable de contenir à ce point-là le Joker. Tout le monde le sait, en NBA, t'es parfois raillé, jalousé, moi j'appelle ça de la jalousie. Est-ce que cette performance contre Jokic, elle a rétabli un peu quelques vérités? Je sais que toi tu t'en fous, mais quelque part, je vais pas dire fermer les bouches, mais un petit peu quand même, non?
Bah écoute, moi l'objectif c'était vraiment le titre. Ouais. Donc on savait que pour aller jusqu'au titre, il fallait passer Denver, probablement les Spurs, probablement OKC, et après les finales, donc... J'étais préparé à une route pleine d'embûches, mais j'étais vraiment excité à l'idée de ce challenge. Bien sûr, Jokic, pour moi, c'est un des meilleurs pivots all time. Donc, c'était un super challenge et pouvoir le battre. Au-delà de ce que les gens disent à l'extérieur, pour moi-même, c'était quelque chose que je voulais faire. Entre guillemets, je suis sorti encore plus de ma zone de confort sur la manière dont on l'a défendu, dont je l'ai défendu, dont je l'ai joué, tout simplement, des deux côtés. Et donc, ça a payé.
L'international français pivot des Minnesota Timberwolves, Rudy Gobert, est l'invité exceptionnel de Stephen Brunch. Rudy, on sait, t'as 33 ans, t'es parmi les athlètes les plus incroyables dans la ligue, c'est reconnu par tout le monde, par tes pairs. Mais on a quand même envie de savoir jusqu'où, toi, tu peux te mettre des limites. Est-ce que tu sais jusqu'à quand tu vas pouvoir durer ou jouer en NBA? Parce que t'arrives quand même à maintenir un physique assez incroyable. T'avais loupé justement l'Euro pour ça aussi, pour te préparer pour cette saison NBA.
Bah écoute, je me fixe pas de limite. La retraite, pour moi, c'est encore quand même assez loin. Donc, j'ai pas de date fixe en tête. J'essaie vraiment d'être dans la meilleure forme possible, le plus longtemps possible. Je continue à apprendre des choses chaque année. Je continue à changer des petites choses dans mes routines, dans la manière dont je travaille. C'est passionnant pour moi de pouvoir faire ça. Et puis, je sens que j'ai encore de très belles choses à accomplir et donc je me donne toutes les chances de le faire.
Physiquement, tu t'es jamais senti aussi bien qu'à l'heure actuelle?
Je dirais pas, je me suis jamais senti aussi bien. Forcément, il y a des choses que je faisais à 22 ans physiquement que là, je sens que mon corps il est différent, mais je me sens vraiment bien sur le terrain. C'est-à-dire, je me sens jamais été aussi fort physiquement. Après, peut-être que je suis en termes de tonicité, un tout petit peu moins tonique qu'avant, mais j'ai quand même une très bonne tonicité, donc ça se sent pas tant que ça. Et puis surtout, l'expérience, le cardio, enfin toutes ces choses-là. Je parle vraiment de physique. Je me sens vraiment très très bien sur le terrain.
Et on va revenir sur les playoffs. Vous avez fait un truc que jamais personne n'avait fait. Ton équipe des Wolves, vous avez fait péter un plomb à Victor Wembanyama, qui a mis un coup de coude à Nasrid. C'est la seule solution aujourd'hui en NBA pour limiter l'impact de Victor, de jouer dur avec lui.
Nous l'objectif c'était de l'impacter physiquement. On sait que c'est l'aspect de son. Genre moi personnellement déjà face à Victor, je sais que c'est là où j'ai encore l'avantage, c'est la force physique et l'endurance et bien sûr l'expérience. Mais l'objectif c'était vraiment de l'user au fil du temps, de l'user avec des impacts répétés. Et je pense que au match 4, il était, même avant le coup de coude, on sentait qu'il était quand même un peu épuisé déjà. Et je pense que la fatigue aussi mentale a fait qu'il a perdu un peu le contrôle à ce niveau-là. Ouais, il m'a impressionné parce qu'il a, il est revenu, il y a eu ce match 4, après il est revenu et sur le match 5 et 6, il a été très bon. Et pour moi, c'est ce que j'ai dit à son préparateur physique après la série. J'ai dit, le Victor, il y a un ou deux ans, je ne sais pas s'il aurait pu faire ce qu'il a fait là. Et on va dire, je lui ai dit, il a passé le test, entre guillemets. Je n'étais pas sûr qu'il le passerait. Et il a vraiment passé ce test, qui est un des tests les plus compliqués qu'il a passé pendant sa carrière.
La suite de l'entretien avec Rudy Gobert dans un instant dans le Stephen Brunch sur RMC. Juste le temps de vous rappeler le programme pour les joueurs parisiens, les joueurs du PSG qui reviennent de Budapest avec une deuxième étoile après le titre acquis face à Arsenal hier soir. Ils sont dans l'avion actuellement, ils vont atterrir à Roissy dans quelques minutes. On suivra ça tout au long de l'après-midi sur RMC, bien sûr avec nos équipes déployées au Champ de Mars où il y a déjà du monde qui commence à arriver pour fêter ce titre-là. Nous serons en direct du Champ de Mars dans quelques minutes, mais on poursuit cet entretien exceptionnel avec Rudy Gobert qui va nous parler maintenant avec Stephen Brun, bien sûr, de sa relation très très proche avec Victor Wembanyama, puisqu'il l'a vu grandir, il le suit depuis très longtemps, ils se sont même rencontrés il y a quelques années.
Écoute, Victor, la première fois que j'ai rencontré, c'était sur je faisais un événement, un tournoi pour les enfants, c'était à la Hoops Factory, il avait 13 ans.
Il est grand, mais
surtout c'est sa mère, en fait, j'ai vu la taille de sa mère et j'ai vu son père aussi, j'ai dit je pense que lui il va être grand, il est bien parti pour être très grand. Et puis après j'ai pas vraiment revu jusqu'à ses 16 ans, quoi.
Il parlait beaucoup déjà à l'époque ou...
Non, c'était pas... Quand il avait 13 ans, il parlait pas beaucoup. Du moins, quand je l'ai rencontré, il parlait pas beaucoup. Et c'est après, en fait, que quand il avait 15 ans, j'ai commencé à faire attention à son développement, etc. Puis j'en parlais avec Jérémy, Bouna aussi. Et puis à 16 ans, c'est là où je l'ai revu. Et après, c'est là aussi où on a fait le petit...
La vidéo, le 2.2.
Ouais, j'ai senti que il avait soif. Il avait vraiment une soif de connaissance, conscience, une certaine, je dirais même spiritualité, qu'il était très très intelligent.
Tu t'es dit des gamins comme ça, c'est la première fois que j'en croise un.
Ce que je dis souvent, c'est que bien sûr, il a des attributs physiques et un skill set qui sont uniques, mais ce qui est encore plus unique, et je pense que les deux sont liés, bien sûr. Mais c'est sa mentalité. Il a ce mélange un peu de geek, mais aussi de Kaira,
on va dire. On le voit d'ailleurs un peu sa caractère en ce moment en playoff.
C'est le bon mix, en fait, parce que t'as envie d'avoir les connaissances, mais t'as envie aussi d'avoir ce côté je m'en fous et tu vois, je suis prêt à tout pour gagner. Donc il a ce bon mélange là et très 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 tôt, très grosse soif de connaissances, mais pas seulement basket, en fait,
sur la vie,
sur tout le reste. Et même au-delà, tu vois, on a de très bonnes conversations avec Victor et c'est ça que j'ai vraiment aimé chez lui. Et je me suis dit, on est sur pas mal de petites choses, on est quand même très similaires et j'ai senti que j'ai essayé vraiment de l'aider à tous les niveaux.
Et d'ailleurs, sur cette vidéo qui était devenue virale quand il a 16 ans, il y a toi qui es avec Vincent Poirier et il y a Victor Wembanyama et on a tendance à oublier, il y a un quatrième garçon qui s'appelle Maxime Renaud et qui vient de faire une saison magnifique en tant que rookie à Sacramento. Toi, à l'époque, Maxime Renaud, tu savais que ça allait devenir ce joueur-là ou c'était juste un gamin qui jouait à Nanterre avec des qualités parce qu'il était grand, il a quand même des qualités, tu le voyais quand même devenir aussi important que ça en NBA?
Moi, à ce moment-là, je parle parce que Maxime, je l'avais pas vraiment vu jouer avant. Ouais. Et je parle avec Jérémy et Jérémy, il me dit, il me dit, c'est une tête.
Oui,
il est très intelligent. Il va, c'était juste avant qu'il aille à Stanford.
Ouais.
Donc, il me dit, il va aller à Stanford. Et je vois qu'il est très intelligent. Bon, forcément, t'as Victor à côté, donc tout le monde se concentre sur Victor. Mais je me dis,
lui, il a quelque chose aussi.
Déjà, quand t'es intelligent, je veux dire, quand t'as une tête, et après que tu fais 2m13, si t'as la bonne mentalité, en général, tu vas bien t'en sortir, tu vois. Et je me dis, Enfin, lui, ça m'étonnerait qu'il aille pas en NBA quand même. Bon, au fil des années, donc je regarde pas le college basketball, si, ouais. mais je prenais de ses nouvelles quand même. Et puis à sa dernière saison, c'est là où ils m'ont dit, ouais, il va sûrement y aller l'année prochaine. Après, comment un joueur s'adapte au jeu de la NBA, tu peux pas prévoir. Et là où je savais pas s'il avait ça, c'est ce petit côté un peu Kaira, comme on dit, le petit côté.
Là aussi, tout le monde a ce côté Kaira, j'ai l'impression.
Bah, il le faut pour réussir en NBA, il le faut. Parce que t'as beau être intelligent, t'as beau être talentueux, si t'es un gentil garçon.
Il y a 60 mecs qui arrivent au mois de juin à chaque fois pour prendre ta place.
Hein. Exactement. Et ouais, faut avoir ce côté, je suis là pour te démonter. Et peu importe quel est ton atout sur le terrain, si t'as pas cette confiance profonde en toi, bah c'est dur de percer. Donc j'étais impressionné quand même cette année parce qu'il a bon, il y a eu des
blessures de Sabonis,
t'es dans une équipe qui joue plus vraiment pour quoi que ce soit, mais ouais, il a quand même répété des belles performances. Et encore une fois, faire une bonne performance, c'est bien. Faire une ou deux bonnes semaines, t'es chaud, c'est bien. Mais là, il a montré quand même une certaine consistance. Donc c'était cool à voir. Et puis on a senti qu'il prenait en assurance au fil des mois. Donc c'était vraiment une agréable surprise de le voir évoluer aussi vite.
Rudy, la bonne nouvelle pour les supporters de l'équipe de France, c'est que tu vas faire ton retour en bleu début juillet sur une fenêtre internationale contre la Belgique et contre la Finlande. T'avais pris un été off pour l'Euro l'année dernière. La dernière fois qu'on t'avait en bleu, c'était la finale des Jeux Olympiques à Paris contre les Américains. Et moi, je vais te dire mon sentiment. J'avais l'impression que peut-être que je ne te reverrai plus jamais jouer en bleu, parce que je me suis dit, j'ai l'impression que Rudy, il va peut-être dire qu'il va arrêter, il va arrêter l'équipe de France. Alors je ne sais pas si ça t'a traversé l'esprit, mais en tout cas, je suis très content finalement que tu reviennes en bleu. Est-ce que justement, la fin de la médaille d'argent, la deuxième même, après Tokyo, est-ce que tu as eu cette réflexion de dire, est-ce que ce n'est pas peut-être le moment pour moi d'arrêter, parce qu'il y a des jeunes qui arrivent et que peut-être que mon rôle n'est plus le même et que je préfère me concentrer sur la NBA?
J'avais de la frustration, je vais pas te mentir, mais non, c'est pas ce que ça m'a pas traversé l'esprit en fait. C'est pas comme ça que je réfléchis vraiment. Je me suis plus dit ok, écoute, on va revenir et si on n'a pas eu cette médaille d'or à Paris, j'espère qu'on va l'avoir. L'objectif c'est qu'on l'ait à LA, parce que j'ai pas envie de dire battre ces Américains parce qu'on l'a fait dans le passé. Mais ouais, j'ai envie d'avoir cette médaille d'or autour du cou. C'est un rêve et là c'est clairement un objectif.
Ça reste un grand souvenir pour toi, Paris 2024?
Ouais, c'est une fois dans une vie. C'est même si on l'a vécu, hein, on était vraiment concentré sur le.
C'était deux compétitions en une. Hein. Il y a la phase de poule qui était compliquée, puis après arriver.
Ouais, mais sans la phase de poule, on n'aurait pas fait ce qu'on a fait. Ça se trouve, on a une phase de poule qui se passe super bien et ça se passe pas comme ça s'est passé en quart et en demi. Donc je pense que cette phase de poule, elle nous a renforcés au final. Et on a su, en tant qu'équipe, répondre présent au bon moment.
T'as revu les images des tirs de Steph Curry en finale ou pas?
Ouais, je disais, bah oui. Mais ce que je dis beaucoup, c'est bien sûr, il a tué le match avec ça. Mais si on regarde la physionomie du match, c'est pas ça vraiment qui fait qu'on perd. Il y a un paradoxe dans ce que je dis. Hein. Ouais. C'est, bien sûr, Steph Curry met pas ses shoots.
Oui. Vous êtes champion.
On peut gagner. On
ça,
gagne.
C'est la une, mais il y a d'autres choses derrière.
Mais rebond offensif, les fois où on prend des shoots, on se précipite un peu, on vient pas en défense. Tu vois, il y a eu pas mal de moments avant où.
Tu t'es senti plus proche d'Eric Quin en finale à Tokyo ou en finale à Paris?
Écoute, pour moi, c'était très similaire. Après Tokyo, pareil. Tokyo, on les bat au premier match.
Oui.
Après, on est en finale. Bon, on avait beaucoup plus de fatigue parce qu'on s'est élevé. C'était un match déjà. Je sais plus à quelle heure c'était le match. On s'est levé à 5h du mat pour aller jouer un match. On a fait une heure de bus. Tu vois, et le match était à 11h du mat. Quoi. Donc là, c'est un truc qu'on n'avait jamais fait. Mais bref, on se disait qu'on pouvait les battre. Alors, ils ont fait un run, je crois, en deuxième mi-temps où on avait du mal à installer notre jeu et ils nous ont pris.
Puis KD, quoi.
Et puis KD, sur le premier match, on avait joué beaucoup plus à l'intérieur et on avait provoqué des fautes et on avait sorti KD du match, il avait fait 5 fautes. Là, on avait un peu moins fait. Mais ils avaient, voilà, Jrue Holiday avait vraiment changé le cours du match avec sa pression et derrière KD a fait du KD. Sur le match à Paris, malgré le fait qu'il y ait LeBron, Steph Curry, bon, KD aussi, non, je pensais qu'on était là, je pensais qu'on était proche. Encore une fois, quelques shoots de Steph et on les prend probablement. Donc et surtout, je le redis encore, c'est avant sur les rebonds offensifs qu'on leur donne, on leur a donné la vie en fait. Et on sait que Steph est capable de faire ça, mais si on leur donne pas la vie qu'on leur a donnée, bah mettre ses shoots quand t'es mené, c'est différent.
Et on est d'accord que te voir cet été sur les fenêtres, ça veut dire que tu vas t'inscrire sur Coupe du Monde 2027 au Qatar et JO 2028.
Bah écoute, c'est l'objectif. L'objectif, c'est vraiment de d'installer. Bon, on a un nouveau coach, il y a beaucoup de jeunes joueurs qui arrivent.
Ça va être ta première avec Freddy Fautou.
Ça va être ma première avec Freddy. Et donc, on veut créer une synergie, créer des bonnes habitudes, créer de l'alchimie, même si on se connaît avec beaucoup de joueurs, mais il y a un mix de jeunesse et d'expérience, donc on veut mettre toutes les chances de notre côté, en fait. Et après, Coupe du Monde, l'objectif, c'est médaille d'or, Coupe du Monde, c'est l'objectif, clairement. On sait qu'il y a énormément de très bonnes équipes. Mais c'est chaque fois qu'on marche sur terrain, quand on rentre sur terrain, c'est essayer de battre n'importe qui en face de nous.
J'imagine que tu as suivi les aventures de ton pote Evan Fournier depuis 2 ans avec Olympiacos, et notamment ce titre de champion d'Europe. Il vit une aventure magnifique, l'engouement du public, la ferveur, il est champion d'Europe, il est MVP du Final Four. Est-ce que toi, à un moment donné, voir ce que vit Evan en Grèce, dans un club qui est exceptionnel en Europe, tu te dis que dans 2-3 ans, si jamais l'aventure NBA ne te plaît pas, tu pourrais éventuellement envisager de vivre cette aventure-là en Europe ou pas?
Personnellement, moi, je me vois finir en NBA. Okay. Après, on ne sait jamais comment les choses évoluent au fil des années. Donc, comme je dis, ne jamais dire jamais.
Il y a NBA Europe aussi.
Mais NBA Europe. mais Evan, pour moi, c'est la meilleure chose qui pouvait lui arriver. Comment il est câblé, en fait. C'est un des plus gros compétiteurs que je connaisse. Et voilà, le fait, comment ça s'est terminé à New York. Moi, ça me faisait
mal au cœur.
Ouais, ça me faisait chier pour lui parce que c'est un de mes meilleurs amis. Et je sais à quel point il a envie de gagner, il a envie de contribuer à la victoire de son équipe. Donc quand il est rentré en Europe, je me suis dit, écoute, j'ai hâte de voir ce qu'il va produire, parce que ce qui va se passer pour lui, et je sais qu'il va montrer qui il est vraiment. Et là, cette année, quand il soulève ce trophée, ça m'a donné des frissons, parce que j'étais vraiment content pour lui, et il le mérite, tout simplement.
Rudy, merci beaucoup. D'ailleurs, tu veux une petite anecdote, Alex, sur Rudy Gobert?
Dis-moi.
Je joue à Nanterre, saison 2012-2013. Lui, c'est sa dernière saison avec Cholet. Je sais pas si tu te rappelles. On va à la Meilleraie. On n'a plus de poste 5, je suis obligé de jouer pivot. Donc, je me trouve face à Rudy Gobert.
Oh, le match-up.
À un moment, il y a un tir qui part d'un Cholet. Je vais pour faire un écran de retard. Et là, je prends une claquette dunk, mon garçon. Il m'a détruit. J'ai pris un tomard de l'espace. Je me suis dit, un plus.
Ah ouais, je vais voir la vidéo. Parce que...
Un plus. J'ai dit, ah ouais, d'accord, ok. Je crois que je me suis fait tomard dessus par un mec qui va.
C'était en jubilé, ça, en fait.
Et là.
Bon, quand après, on a été champion de France, Rudy.
Merci
beaucoup, Rudy. Passe un bel été. On est très content de te revoir avec le maillot de l'équipe de France.
Merci.
Et merci pour tout. Ciao, ciao.
Plaisir.
Le pivot de l'équipe de France, Rudy Gobert, invité exceptionnel du Stephen Brunch. Vous pouvez retrouver l'interview dans son intégralité, bien sûr, en podcast sur le site d'RMC, sur l'appli RMC.
RMC, 13h-15h, les meilleurs moments de Stephen Brunch.
Stephen Brunch.
Le 15 de France, cela devait être un potentiel sacre hier, l'opportunité était belle, mais cela a tourné à la correction. Le 15 de France était tout simplement impuissant. Une large partie du match hier à Murrayfield face à l'Écosse, défaite 50-40 des troupes de Fabien Galthié. Pierre Berbizier, ancien demi de mêlée, sélectionneur du 15 de France entre 1991 et 1995, est l'invité du Stephen Brunch. Et cette question, Stephen, a-t-on vu les Bleus trop beaux? On accueille Pierre Berbizier.
Bonjour Pierre.
Bonjour.
Comment allez-vous?
Écoutez, difficile après ce que l'on a vu et vécu hier après ce match. Donc, c'est difficile pour nous Français de se réveiller sans gueule de bois.
C'est vrai que hier a été très compliqué. Il y a une belle redescente sur terre quand même par rapport à ce qu'on avait vécu sur les 3 premières journées. Est-ce qu'on s'est vu trop beau, Alex, Johan, Pierre? Je sais pas si on s'est vu trop beau. Peut-être que les médias se sont peut-être un peu trop enflammés, soit en manquant de respect à cette équipe d'Écosse, ou soit peut-être en surestimant ce 15 de France. Mais hier, on s'est loupé sur quasiment l'intégralité de la rencontre, même s'il y a un petit sursaut à la fin avec ces 4 essais qui sauvent un peu les apparences. Mais on s'est loupé. Il y a pas.
On a été pris partout.
Partout,
70 minutes, on n'a pas existé.
On n'a pas le ballon, donc on fait des fautes, donc on est pénalisé. Mais mine de rien, à la mi-temps, il y a 19-15 à la mi-temps. Le retour de mi-temps, il est catastrophique, en fait. Alors que Fabien ouvre son banc, il est dramatique. Je crois qu'on prend 3 ou 4 essais.
Mais si t'en prends plus en première mi-temps, il n'y a rien à dire aussi. Ils ont plusieurs occasions en première mi-temps et le score peut être plus lourd. On marque un essai parce qu'Antoine gratte un ballon, il arrache un ballon, il y a un essai, donc ça fait 14. mais c'est un essai à deux passes, à 5 mètres de la ligne.
On rappelle que l'Écosse n'avait jamais marqué autant de points lors d'une rencontre face au 15 de France. Le dernier record daté d'un match du tournoi des 5 nations en 99, durant lequel le 15 du Chardon avait infligé un vilain 36-22 aux Français sur la pelouse.
C'était pas Pierre.
Mais Pierre, justement, on peut lui demander, est-ce qu'il n'y a pas eu quand même un déficit? Est-ce que les cadres hier n'ont pas failli, tout simplement, quand on voit notamment le match d'Antoine Dupont?
Ben, je voudrais d'abord féliciter cette équipe d'Écosse qui a montré un visage, vraiment un beau visage, et qui pose sans doute le problème de fond du rugby français, de cette équipe de France. On a vu une identité dans le jeu écossais, donc ils m'ont rappelé un petit peu, à l'époque on les prenait, c'était les Blacks européens, ce jeu avec beaucoup de vitesse, beaucoup de dynamisme, on les comparait un petit peu au jeu des Blacks. Aujourd'hui je me pose la question, et je vous la pose, quelle est l'identité du jeu français? Il s'est longtemps reposé, ou il se repose souvent sur des individualités qui brillent, ou qui sur des actions individuelles. Quand on fait le bilan de ce début de tournoi, on voit que les Français s'en sont sortis sur des actions individuelles et non pas sur un jeu collectif. Quel est le projet de jeu? Aujourd'hui, je pose la question, et peut-être qu'il faudrait se la poser. Quelle est l'identité du jeu français?
Il est visible pour vous, Pierre?
Moi.
Pour vous, il est illisible, ce jeu français?
À ce jour, oui, je ne peux pas le déterminer. Autant j'ai vu l'identité du jeu écossais, autant le jeu anglais, on le connaît. Alors, on aime ou on n'aime pas. Ça nous replonge aussi le jeu sud-africain, et on se retrouve quand même un petit peu en arrière. Cette Coupe du Monde perdue contre les Sud-Africains, on avait évité le débat en mettant sur le compte de l'arbitrage. On revient sur la tournée de novembre, où là on reprend une autre humiliation par les Sud-Africains, et là il n'y a plus contestation, et on en reprend une autre là sur ce tournoi. Donc quelque part il y a régulièrement des, pour moi c'est une humiliation.
Après Pierre, on voit l'évolution du jeu français par rapport à novembre et sur le tournoi, où l'équipe de France tient un peu plus le ballon dans les 40 mètres adverses, ils essaient de proposer du jeu, des lancements, chose qu'ils ne faisaient pas avant, ils étaient dans la récupération.
Je pense qu'il y a confusion dans la tête des joueurs, et que les joueurs ont lâché un petit peu. C'est-à-dire qu'on est passé d'un jeu de dépossession, on est passé ensuite à un jeu de possession. Et aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a confusion dans la tête des joueurs, savoir quel jeu ils doivent jouer. Donc, je crois que ça avait été le cas, et l'exclusion de certains joueurs de l'équipe, et qui avaient évoqué un petit peu ce jeu-là, et je crois que certains ont été écartés mais vous devez mieux le savoir, mais j'ai cru savoir que ça a été la raison du départ ou de l'exclusion de certains joueurs qui demandaient mais quel jeu on veut jouer, et ce jeu-là on veut plus. Donc, et aujourd'hui se pose le même problème. On s'était appuyé sur des qualités individuelles, sur des actions individuelles. Le match précédent, regardez, donc c'était des actions individuelles.
Pierre, justement, ce concept de jeu que vous ne voyez pas avec Fabien Galthié, est-ce que le fait on a des individualités qui sont très fortes, c'est pas aussi, ça peut être aussi un projet de jeu, en fait, de s'appuyer sur les qualités individuelles des joueurs de Jalibert, de Dupont, de Atisogbe, de Broubouari?
Non. Il y a d'abord la définition d'un projet de jeu collectif, et ensuite il y a les joueurs qui vont mettre en place ce jeu collectif. C'est jamais l'inverse, ce sont jamais les individus qui en tous les cas, ma conception, un projet de jeu se détermine par rapport à une définition du jeu tel qu'on le conçoit, et ensuite le joueur qui va prendre en compte ce projet de jeu. Là, on part des joueurs de leur et avec un potentiel de joueurs qu'on a rarement eu peut-être, ou avec des moyens de préparation qu'on a rarement eu. Mais aujourd'hui, j'ai du mal à identifier le jeu français. Quelle est notre identité aujourd'hui? Ouais.
Pierre, après, je pense pas que ce soit vraiment la définition de la défaite d'hier de d'avoir pris 50 points en Écosse sur un projet de jeu. Peut-être qu'on ne définit pas, parce que tu as raison, on ne définit pas le projet de jeu. Mais hier, avoir pris 50 points face à une équipe d'Écosse où je pense mais pas qu'il y ait beaucoup de Français
organisés sur une défaite de 50 points. Je ne sais pas, je me demande si les joueurs n'ont pas lâché leur entraîneur.
Ah, pour un quatrième match en Écosse, Pierre, avec la possibilité d'avoir un grand chelem, ça me paraît gros quand même de dire que les joueurs ont lâché leur sélectionneur.
Écoutez, quand je vois leur comportement, quand je vois à un moment donné comment on a lâché devant l'Écosse, quelque part.
On a été pris dans tous les comportements, c'est pour ça. Je pense pas qu'ils aient lâché parce que les 10 dernières minutes, ils arrivent à revenir. Un mec qui a pas vu le match, qui voit 50-40.
Il se dit, c'est serré.
Oui. Il a été serré. C'était un bon match. Il a été enlevé.
Oui. On disait en disant qu'on a mis 42 points, on faisait quoi,
si vous voulez. Non, mais c'est cette faculté d'aller chercher son point de bonus offensif qui était pas évident parce qu'on était pris dans tous les compartiments.
Ah, on a du mal à entendre Pierre Berbizy. Un petit souci de connexion.
Ouais, Pierre, j'ai l'impression que Fabien Galtier intervient sur la ligne, Pierre.
On va essayer de reprendre la connexion avec l'ancien sélectionneur du 15 de France. Juste, on peut en profiter, Pierre, pour prendre Yannick au 32-16, premier auditeur du Stephen Brunch.
Bonjour Yannick.
Très énervé, Yannick, je crois.
Yannick, ça va Yannick?
Salut les gars, ça va? Johan, beau gosse.
Ah ouais, bah direct on démarre ça, bravo.
Il me manque, non mais Johan Huger, franchement il me manque, il faisait partie de ces joueurs vraiment. C'est pour moi c'est un des derniers romantiques du rugby. J'adorais ce mec, j'adorais ce joueur, j'adorais l'état d'esprit. Et un jour je l'avais croisé dans un avion qui faisait Paris-Toulouse. J'avais même pas osé aller le voir tellement j'étais
intimidé
devant lui. Ouais, c'est dommage parce que vraiment c'est le genre de mec qui nous manque.
Quand je le vois en soirée, il est très romantique et personne n'ose aller le voir.
Tu as vu ça? T'as vu de suite, il est obligé de tailler les gens. Mince.
Yannick, tu nous appelles d'où?
Mais il doit pas rentrer bredouille souvent, tu vois.
Tu nous appelles d'où, Yannick?
De Boulogne.
De Boulogne-sur-Mer ou Boulogne-Billancourt?
Ah, Billancourt, le vrai.
Ah, à côté. Mais Yannick, t'es énervé, toi, sur ce que t'as vu hier.
Non, mais moi, j'ai pas le bonheur. De toute façon, ça y est, depuis hier, je sais, j'ai pas le bonheur.
T'es supporter de l'OM aussi?
Je suis supporter de l'OM, je suis supporter du 15 de France, je suis supporter du Stade français. Donc moi, clairement, j'ai pas le droit au bonheur depuis des années. Je suis à deux doigts, quand même, d'aller dans la théorie de Monsieur Berbizet, quand même. Hein. Je me demande si, enfin, les mecs, ils sont pas débiles. C'est pas juste 15 gars qu'on met sur un terrain, on leur dit faites tourner le ballon, rigolez, mettez des grands coups de casque. Les mecs, ils réfléchissent, sont des humains. Et déjà, pour moi, les erreurs, c'est de mettre de côté sur des tournois, entre guillemets, importants, des mecs leaders de défense comme Ficou, plein d'expérience. C'est bien les jeunes, c'est très bien les jeunes. Mais un match comme hier, un gars qui a 33, 34 balais, qui a quasiment sans sélection, il aide à se remettre un petit peu à l'endroit.
Ouais, c'est trop facile de me tenir ce discours-là parce qu'on a perdu en Écosse. Et les Ficou, les Aldrit et les Penaud, personne n'en parle sur les trois premiers matchs du tournoi parce que tout va bien.
Mais oui, c'est facile. Mais j'ai le droit à un peu de facilité. La vie est trop dure comme ça.
Très bon argument.
Ça, c'est un argument. Le deuxième argument, c'est quand même de se dire que je crains Fabien Galtier. C'est un mec, j'ai cru en lui un an, deux ans, trois ans, quatre ans. Là, je commence à plus trop croire en lui. Un truc tout con de coaching hier. C'est extrêmement rare, je vais pas lui taper dessus parce que c'est un génie. Mais hier, Dupont, il est pas. Qu'est-ce qui empêche de faire rentrer Serein à la mi-temps ou à la 50e? Il ferait exactement la même chose si le pilier n'y était pas.
Yannick, ne bouge pas. On a rétabli la liaison avec Pierre Berbizier qui est toujours avec nous dans le Stephen Brunch. Cette question, Fabien Galtier, responsable de ce qui s'est passé hier, et ne fait-il pas assez confiance à son banc finalement?
Mais je rejoins l'opinion de votre auditeur.
De Yannick, oui.
De Yannick, et je vais plus loin. Pourquoi avoir changé la paire de centres? Pourquoi avoir changé la seconde ligne? On a changé d'un match à l'autre les deux secondes lignes et les deux centres. Et quelque part, j'ai eu l'impression qu'on, au lieu de vouloir imposer notre jeu, on se préparait déjà dans notre tête, et je pense que les joueurs percevoir comme ça, on est subir déjà les Écossais. Donc, où on s'adapte. Au lieu de vouloir imposer notre jeu comme on l'avait fait précédemment, pourquoi on change l'attelage et imposer notre puissance? Vouloir déjà, je ne sais pas si on n'avait pas perdu le match à ce moment-là. Bien sûr qu'on peut gagner le tournoi, et est-ce qu'on sera satisfait ou est-ce qu'on se rappellera de ce match? Quelque part, oui, on aurait pu gagner la Coupe du Monde qu'on a organisée chez nous. Oui, on aurait pu, mais on ne le fait jamais. Oh, en fin de compte, alors effectivement, on peut gagner le tournoi, mais est-ce que aujourd'hui gagner le tournoi par rapport à ces échéances futures, la prochaine Coupe du Monde, est-ce qu'on sera prêt pour la prochaine Coupe du Monde? Le tournoi, on l'a déjà gagné. Cette équipe, vu les moyens, vu la qualité des joueurs, bien évidemment, ça va permettre de se sortir un petit peu des problèmes de fond sur la forme. Oui, on va le gagner, le tournoi. On peut le gagner, bien évidemment. Est-ce que ça réglera nos problèmes de fond? Je ne le pense pas.
On remercie Pierre Berbizier, l'ancien sélectionneur du 15 de France.
Merci, Pierre. Merci d'avoir été avec nous. Passez une bonne fin de dimanche. Bonne fin d'après-midi.
Merci.
Au revoir.
Merci Pierre Berbizier. On a entendu les propos sur Fabien Galthié. Je rappelle quand même, il y a différents scénarios qui se proposent à la France avant d'affronter
trois équipes qui peuvent gagner
l'Angleterre. Exactement, Stéphane. Et surtout, en levée de rideau de ce France-Angleterre, il y aura avant l'Irlande face à l'Écosse. Et si l'Irlande gagne sans bonus, bah dans ce cas, une simple victoire des Français face aux Anglais suffirait aux Bleus pour remporter le tournoi. Mais s'il y a une victoire, par exemple, de l'Irlande avec le bonus, et bien dans ce cas-là, il faudra certes une victoire sans bonus pour le 15 de France, mais ça se jouerait à la différence de points, plus 63 pour les Bleus. Et le 15 du trèfle par rapport à ça part de très loin. Il y a encore aussi un cas où l'Écosse s'impose face à l'Irlande avec bonus. Et dans ce scénario, il faudrait une victoire bonifiée donc du 15 de France. Et encore une fois, cette dernière n'assurerait pas mathématiquement la victoire finale aux Bleus. Mais ça pourrait se jouer justement grâce à leur large différence de points dans ce cas de figure. Donc ça fait quand même plusieurs cas de figure, même si on a dit depuis hier que le 15 de France gardait son destin en main.
RMC, jusqu'à 15h, les meilleurs moments de Stephen Brunch.
Alors on parle rugby toujours avec Stephen, avec Johan Hugé et vous au 32-16. Une victoire dans le tournoi effacerait-elle l'humiliation subie hier, puisqu'il reste plus qu'un rendez-vous face à l'Angleterre samedi prochain 21h10, bien sûr à suivre sur RMC. Des Anglais, il faut le rappeler, qui ont perdu hier soir à Rome face à l'Italie. Certes, un effectif qui était un peu remanié hier à Rome, mais
ils ont bien fait.
C'est quand même un tournoi destination catastrophique pour l'Angleterre, et on se demande.
C'est quand même un drôle de tournoi destination en fait.
C'est sûr.
D'un week-end à l'autre, il y a des équipes qui doivent être nulles finalement, qui sont bien. Les Gallois, on pensait qu'ils allaient en prendre 50 en Irlande, finalement ils font un match très cohérent. Les Anglais, qui avant de démarrer le tournoi, ils étaient sur 11 ou 12 victoires de suite, ils mettent pas un pied devant l'autre. Je comprends rien, ce tournoi destination.
C'est compliqué ce tournoi à suivre, à parier. Si à parier sur une équipe qui va gagner, qui va prendre des points, c'est compliqué. Mais en tout cas, on a une très là. Pour moi, la vraie surprise de ce tournoi, c'est l'Italie. L'Italie est incroyable.
Ça reste une surprise quand même, parce que c'est attendu à un moment donné.
Non, c'est une surprise.
L'Italie bat l'Angleterre.
Ils battent l'Angleterre. Enfin,
Rasmus l'avait annoncé.
Oui, il a certainement.
Et c'est une évolution constante depuis plusieurs années. Voilà. C'est juste qu'il grimpe d'un palier encore.
Chaque année, ils progressent. C'est une équipe qui est costaud. Ils ont des beaux joueurs à voir. Moi, c'est quand on les voit jouer, on prend du plaisir à les voir jouer.
Et on va peut-être prendre du plaisir à écouter.
J'ai l'impression qu'il y a un vrai projet de jeu en Italie, contrairement à chez nous, m'a dit Pierre Berbizier.
On te dit dans l'oreillette que. Il y a un gros projet de jeu.
On va peut-être prendre du plaisir aussi à écouter Jean-Baptiste qui nous appelle au 32-16, qui pense qu'on s'est vu trop beau avant l'Écosse. Salut Jean-Baptiste.
Salut Jean-Baptiste.
Oui, bonjour. Alors déjà, c'est un honneur de passer sur cette radio que j'écoute à chaque fois que je monte dans mon véhicule. Et j'ai perdu le permis pendant un an et vous m'avez manqué, je vous avoue.
Ah, voilà. C'est très gentil. Donc, en fait, tu écoutes la radio que dans ta voiture. Donc, quand t'as plus de permis, tu n'écoutes pas la radio.
Je passe ma vie dans ma voiture. Hein. Je prends ma voiture pour faire. C'est pas très écolo, mais j'adore conduire et voilà, c'est pour ça.
Très bien. Bah, merci. Merci à toi. Et continue d'écouter RMC. Tu nous appelles d'où d'ailleurs? Tu nous appelles d'où d'ailleurs?
Et en fait, j'ai mon papa, moi, qui a 84 ans et qui a entraîné le rugby club toulonnais, qui est entraîné dans les années de 70, 70.
Ah, c'est quand Johan jouait, ça?
14, vraiment, je pense. Il y avait les frères Gallion, tous les anciens du, voilà. Et du coup, on a notre avis bien tranché avec mon papa sur Fabien Galthié.
Eh ben, on t'écoute.
Voilà.
Donc, je vous avoue. RMC, Fabien, pour essayer d'avoir dans la tête.
Non, pas pour lui. Alors, je veux pas être méchant avec lui, mais c'est toujours pareil. Il le porte sur lui. Et même, moi, je suis un artiste, vous voyez. Donc, c'est mon métier. Donc, moi, je vois.
Comme Fabien. Tu fais quoi? T'es un artiste, c'est-à-dire, tu fais quoi?
J'ai fait finaliste de la France en incroyable talent il y a l'année dernière. Ouais, et top. Je chante. Et j'ai une maladie neurologique. Et dès que je chante, j'ai plus de symptômes.
D'accord.
Donc, en plus, c'est ma
passion. Ah, mais je t'ai vu.
J'ai sorti mon album et ça continue pour moi, donc je suis content.
D'accord.
Et voilà.
Longue route pour toi.
Merci beaucoup, ça fait plaisir. Et je suis à fond dans le rugby par rapport à mon papa. Fait un plaquage, on m'a plaqué une fois et j'ai arrêté le rugby, je vous avoue. Donc je ne suis pas très très téméraire. Mais voilà. Sur ce match, c'est toujours pareil et ça fait plusieurs fois que ça nous arrive. Et moi, je le vois comme rentrer sur scène. Fabien Galthié n'inspire pas confiance à chaque fois en milieu de tournoi ou en fin de tournoi. Je sais pas ce qui se passe. Je sais pas si la relation qu'il a avec ses joueurs, ça va pas. Il y a un truc qui va pas. Et moi, je suis d'accord avec la personne qui disait un peu avant. Oui, je pense que les joueurs, c'est pas conscient, mais il y a un affront. Il y a un affront contre lui, c'est sûr. Parce que moi, je n'aurais pas envie de jouer pour quelqu'un comme ça. Il explique pas. Il se la pète un peu. Je trouve il y a quelque chose que j'aime pas, en fait, dans cette équipe de France. Et c'est Fabien Galthié. Désolé pour lui.
RMC jusqu'à 15h. Les meilleurs moments de Stephen Brunch.
Stephen Brun.
On est avec Nadim Remili, champion d'Europe, champion olympique, champion du monde de handball avec l'équipe de France. Il est avec nous à quelques jours du début de l'Euro 2026. Salut Nadim.
Salut à tous.
Salut Nadim.
Nadim, on va commencer par prendre de tes nouvelles puisque vendredi soir, t'as pas joué sur le tournoi de France à la Défense Arena pour un petit peu pas physique. Dis-nous-en un peu plus. Est-ce qu'on doit s'inquiéter ou non, c'est rien?
Non, pas du tout. Un petit peu pas physique qui m'écarte des terrains pour le week-end. Donc malheureusement, pas de tournoi de France pour moi ce week-end.
Ah, pas de match tout à l'heure non plus contre.
Non,
pour la finale.
Non, normalement, je devrais être encore au repos un peu. Écoute, j'aurais moi qui aurais kiffé, en France et surtout à Paris, toute ma famille qui s'est déplacée. Mais bon, on a quand même un objectif, c'est de garder le titre européen. Donc, on va se garder au chaud ou au frais, du moins pour l'Euro.
Oui, tu parlais de garder notre titre. C'est le dernier titre où vous êtes tenant du titre, justement, 7 euros, puisqu'il y a eu les championnats du monde où vous avez terminé 3e avec une victoire contre le Portugal pour la 3e place. On va pas revenir sur ces JO de Paris 2024 et cette défaite cruelle en quart de finale contre l'Allemagne. Est-ce qu'il y a une petite pression sur 7 euros, Nedim, pour l'équipe de France?
Bon, comme tout le temps. C'est un devoir de mémoire chez nous, la pression, c'est l'héritage laissé par les plus anciens et par aussi cette génération juste avant qui a gagné pas mal de titres. Donc c'est une pression qu'on a l'habitude maintenant du titre, et ça c'est pas rien, c'est toujours quelque chose, un petit truc en plus qu'on va nous rappeler tout au long de la compétition et qui, je pense aussi, les équipes dans leur comportement face à nous va être mis en avant. On sait qu'ils ont à cœur que toutes les équipes qui vont dans ce championnat d'Europe, c'est la compétition la plus dense, au handball.
Oui.
Et ont à cœur de faire un beau résultat, et c'est sûr que quand ils jouent face au tenant du titre, ça motive encore plus. Donc ouais, il y a une petite pression par rapport à ça. Maintenant, encore une fois, c'est une pression à laquelle on est habitué, et aujourd'hui nous, dans l'optique dans laquelle on s'est mis, on a envie de passer un cap et passer au-delà de ça.
Et j'allais dire, les attentes ont toujours été grandes, parce que tu l'as dit, tes prédécesseurs nous ont habitués à beaucoup de trophées, à beaucoup de titres. Toi, t'estimes que on a été parfois, nous, médias, ou même les supporters de hand, peut-être un peu durs. Je ne parle pas de cette défaite en quart de finale de JO, mais que cette médaille de bronze au championnat du monde, où vous perdez contre le pays hôte, la Croatie, en demi, et que vous gagnez ric-rac contre le Portugal, peut-être qu'on n'a pas on a dévalué cette médaille de bronze, parce que justement il y a pas de titre, et vous avez tellement habitué à des titres qu'une médaille de bronze, finalement, c'est une déception.
Alors, dur, je sais pas, c'est votre métier, ça, mais plutôt gourmand, je dirais, mais comme tout le monde, et nous les premiers. Mais c'est aussi, tu vois, c'est quelque chose qu'on peut vous reprocher, mais sur lequel aussi on peut être assez heureux, quoi, d'avoir de hautes espérances pour l'équipe de France de handball. C'est important ça nous met aussi en valeur et en lumière sur le potentiel de cette équipe et la capacité à avoir des résultats. Après, évidemment, que comme tu dis, quand tu réfléchis comme ça, perdre en demi-finale face au pays haut dans une salle archi-comble, très hostile, et derrière savoir rebondir deux jours après et gagner une troisième place face au Portugal dans un match ric-rac, ça reste une médaille de bronze au championnat du monde, quoi. C'est pas rien. Maintenant, c'est sûr que je vous comprends aussi sur vu le potentiel et les joueurs que l'on a, hein, qui font partie à chaque poste quasiment des meilleurs du monde. Et bah, c'est sûr que on a envie que cette équipe gagne tout le temps. Et puis avec ce que les experts ont réalisé dans le passé, ça fait partie de notre histoire. C'est comme ça. C'est une malédiction un peu positive d'une certaine manière qui nous oblige à devoir toujours surperformer pour pouvoir aussi un peu exister sur la scène médiatique. Mais c'est comme ça. C'est le handball français qui est comme ça, et nous, on s'en préoccupe pas trop. On essaie de faire notre chemin, d'écrire notre histoire en tant qu'équipe, et aujourd'hui, dans l'ambiance très saine dans laquelle on évolue, on espère vraiment faire un très très bon résultat sur le championnat d'Europe.
Nedim Remili, l'international français de handball, est l'invité exceptionnel de Stephen Brunch. On parlait, Nedim, de cette étiquette de favori pour les Bleus. Moi, j'aimerais revenir un petit peu sur ton cas personnel en équipe de France, parce que t'as quand même démarré avec les Bleus en 2016. Ça fait maintenant 10 ans que t'es en équipe de France. T'es un des piliers de l'équipe qui va s'amener à l'Euro avec Ludovic Fabregas, avec Dika même. Ma question, elle est toute simple. C'est qu'est-ce qui te fait encore le plus kiffer ou le plus plaisir, en fait, dans ton évolution au sein des Bleus, parce qu'on s'en rappelle, t'étais arrivé quand même tambour battant avec les championnats du monde en 2017, t'avais cassé la baraque, mais aujourd'hui t'es un ancien de l'équipe et tu t'amènes vers une nouvelle compétition internationale. Donc avec cette évolution, qu'est-ce qui te fait le plus plaisir maintenant chez les Bleus?
Écoute, 10 ans, c'est vrai que ça fait 10 ans, déjà, c'est une petite fierté, hein, avant de répondre à ta question. C'est vrai que c'est une grande fierté de pouvoir dire que j'ai fait 10 ans en équipe de France, et d'avoir tout gagné aussi, quand même, et pas juste de la présence, hein, d'avoir participé aux belles conquêtes de cette équipe, de faire partie de son histoire pleinement. Ensuite, pour l'évolution, écoute, ce qui me fait kiffer, moi, c'est de jouer en balle. Pour ceux qui me connaissent vraiment, ils savent que moi, je suis un fada de handball, hein. C'est quelque chose qui est dans mon sang, dans mes veines, hein. J'en mange tous les jours. Ça fait plus de 20 ans que je suis dedans et j'en regarde toujours autant. Aujourd'hui, moi, mon fils, il va bientôt avoir 3 ans et la seule chose qu'il regarde à la télé, c'est des matchs de handball, quoi. C'est pour ça que ça m'intéresse pas trop.
Alors qu'il y a d'autres sports mieux à lui montrer, quand même, Nedim, non?
Alors, t'inquiète.
Les sports que t'as testé plus jeune, quoi, par exemple.
Non, mais je lui montre pas mal de basket aussi, t'en fais pas.
Merci.
Il est branché NBA, c'est sûr. Même Euroleague, d'ailleurs. Bon. Mais en tout cas, non, c'est sûr que, moi, c'est ça qui me fait kiffer, quoi. Moi, comme tu dis, je suis arrivé il y a 10 ans. Alors, tambour battant, ouais, inexpérimenté, un peu foufou.
C'est
et
ça.
Aujourd'hui, 10 ans après, j'ai plus de 150 sélections. On est sur un joueur totalement différent. Beaucoup plus de contrôle, beaucoup plus de maturité, d'expérience, et qui doit aussi apprendre à la partager aux autres, tu vois. C'est une histoire d'aura un peu. C'est essayer de démontrer aux autres comment on peut garder son calme tout en ayant cette part de folie. C'est ce qui fait aussi l'esprit de cette équipe. Et j'aime aussi, parce que moi aussi j'ai mes moments de folie. Et si on arrive à canaliser ça correctement, collectivement, c'est ce qui va faire notre force. Donc aujourd'hui, mon rôle, il est aussi dans ça, mais malgré tout, je suis pas là en tant qu'ancien, quoi. Je suis là en tant que joueur de handball, qui a de la chance de jouer dans un des meilleurs clubs du monde et qui aspire à performer, surperformer sur ce genre de compétition, sur les matchs importants. Et c'est là où on m'attend et c'est là où je serai présent.
Et je suis content que tu parles de sport et de performance et que tu aies envie de performer, parce que il y a eu des garçons qui ont cristallisé quelques critiques, notamment après les Jeux et après cette demi-finale contre la Croatie. T'en as fait partie avec le sélectionneur Guillaume Gilles. Toi, t'as tout gagné en bleu, Nedim. Ça arrive de passer à côté de certaines compétitions et t'as sûrement eu des explications à tout ça. Ces critiques-là, déjà, est-ce que tu les as entendues? Est-ce que ça t'a touché? Est-ce que toi, t'es revanchard sur cet euro où t'es, on rappelle, la France était en visite, mais t'es aussi MVP, hein. T'as terminé meilleur joueur de cette compétition quand vous l'avez gagné en 2024. Est-ce que t'es en mode, écoutez, moi, j'ai tout gagné, j'ai plus rien à prouver, ou, ok, peut-être que j'ai été moins bon sur la dernière compétition, mais je vais vous montrer que je suis encore, à mon poste, un des meilleurs joueurs du monde?
Ah, tu connais un peu le sport.
Oui.
Donc, il y a un peu de tout ça, évidemment, hein, on va pas se mentir. Maintenant, le côté revanchard, il est quand même minime comparé au reste, mais c'est sûr qu'il est un peu là. Pour répondre à tes dires sur les critiques, c'est sûr que les critiques elles sont là, elles sont présentes, elles sont vivantes. Aujourd'hui avec les réseaux sociaux, elles sont encore plus importantes qu'à l'époque. Avant c'était un bout de papier où c'est vous qui retranscrivez un peu le message.
Ah, c'est pas moi parce que j'ai pas écrit moi, Nedim. Donc
ouais, c'est vrai. C'est pas... bah, maintenant il y a les ordi, donc t'es sauvé, t'as de la chance. mais maintenant avec les réseaux sociaux, c'est sûr que les gens se donnent à cœur joie, surtout dans la critique plus que dans le soutien.
Ah, oui.
Mais encore une fois, c'est le jeu. C'est la génération qui veut ça et ça pose aucun problème parce que quand ça va dans le bon sens, on est bien content de recevoir les messages. Donc à l'inverse, quand ça va mal, faut savoir l'accepter. Et puis je me dis toujours que plus t'en reçois des mauvais, plus t'es bon. Hein, sinon t'en recevrais pas autant.
C'est vrai que c'était une pique. Il y a personne qui va dire t'as été nul. Quoi, alors que, voilà.
Exactement, c'est clair. Et ensuite pour le reste, ouais, t'as raison. Bah, c'est vrai qu'individuellement j'ai un titre à tenir de MVP. Maintenant j'y vais pas pour le glaner une deuxième fois. Si je le glane, ce sera toujours un honneur. Attention, mais je suis pas à la recherche du Graal individuel. Gagner un titre de MVP sans gagner la compète, ce serait un des plus gros échecs de ma carrière aussi, oui. D'une certaine manière. Le principe, c'est de gagner collectivement. Je t'ai dit, là aujourd'hui, on a un groupe vraiment où on est tous dans une tranche d'âge à peu près. Très proche, très serré, et on a vraiment cet esprit où on a envie de gagner ensemble. On se connaît maintenant depuis pas mal d'années. On est une équipe où on a beaucoup entendu parler de notre potentiel, le potentiel individuel, collectif que cette équipe pourrait avoir. Et aujourd'hui, on veut démontrer que on est avec ce potentiel, et bah, il commence à ressortir vivement et qu'on peut gagner des titres. Donc voilà la première chose à laquelle je pense. Après individuellement, c'est sûr que j'ai eu, comme t'as dit, j'ai eu une demi-finale un peu compliquée l'année dernière. J'ai eu des moments un peu plus durs aussi. Mais encore une fois, comme t'as dit, hein, je préfère le rappeler, hein, mais j'ai tout gagné. Oui. Et dans chacune des compétitions, j'ai toujours été très important. En club, il me manque, comme on disait en off juste avant, il me manque qu'un Graal. Bon, le plus important, certes, mais il me manque. Mais là, on fait tout avec mon club de Vexprem de le gagner. Donc, je suis toujours là. Hein, j'ai que 30 ans, hein, j'en ai pas 39, 41, 52. Et puis, quand on voit LeBron James jouer à 41 de cette manière, je me dis que... J'ai encore quelques belles années devant moi.
Nedim Remili, champion d'Europe, champion du monde, champion olympique avec l'équipe de France de handball et l'invité exceptionnel de Stephen Brun.
Et parle-nous un peu de cette salle dans laquelle vous avez joué ce week-end, la Défense Arena, qui sera une salle justement parce que je crois que la France accueille avec l'Allemagne les championnats du monde en 2029. Il y aura des matchs dans cette salle-là. C'est la première fois que le hand se produisait dans cette salle-là. Alors tes impressions?
Bah écoute, de l'extérieur, c'était vraiment incroyable. Déjà, la modernité de la salle est incroyable. Le vestiaire est énorme. Ah ouais, c'est pour une équipe de rugby, donc c'est pour le triple de joueurs. mais c'est incroyable. La salle de muscu est collée au vestiaire et tout est un peu ouvert. Qui est lui-même collé à la balnéo, donc les bains froids, les bains chauds, la douche. Il y a un petit vestiaire, je pense pour le staff. Il y a un boardroom. Il y a des écrans tout autour dans le vestiaire pour faire de la vidéo. Non, c'est incroyable. Franchement, c'est une salle. Tu sens la modernité du truc et puis. Et puis l'ambiance, tu vois, malgré qu'on m'ait dit hier que c'était pas plein, bah ça s'est pas forcément ressenti. Après, enfin l'ambiance pendant le premier match, pardon. Après, c'est vrai que ça s'est pas emballé non plus, mais bon, je pense que c'est plus de notre fait, notre qualité de jeu entre guillemets sur ce premier match. Mais honnêtement, avec une salle pleine pendant une compétition internationale, ouais, je pense qu'on va faire rêver beaucoup de personnes qui vont assister au match. Donc Je sais qu'on est un peu loin, mais si vous n'avez pas pris vos billets, pour commencer à vous pencher dessus.
Tu seras là encore, toi, donc?
Bien sûr, 2022, je suis encore là, évidemment.
Bien sûr, pas
je suis encore très performant, tu me fais confiance, j'espère.
Non, mais je te parle pas de performance, mais peut-être je te parle d'envie. Peut-être que tu as envie de passer à autre chose, je sais pas, ça peut arriver.
Alors, écoute, ma pauvre compagne et mon fils, mais malheureusement, mon envie pour l'handball est encore bien trop grande.
Dernière question, Stephen.
Ouais, on va parler un peu on va sortir du hand, on va parler du basket parce que je sais que t'adores le basket. Que t'as passé les vacances de Noël à New York, t'avais le maillot de Gershon au Madison Square Garden, donc j'espère déjà que tu t'es régalé. C'est deux sports qu'on a souvent opposé, le hand et le basket, parce que c'est deux sports dans une salle, un ballon qui se joue avec les mains. Est-ce que toi, qui fais des prépas, je sais que tu fais des prépas dans le sud avec Isaac Ordine, notamment des joueurs de basket, est-ce qu'il y a des caractéristiques physiques chez les basketteurs quand tu regardes un match, quand tu regardes les mecs s'entraîner qui t'impressionne?
Oui, bah déjà je vois pas pourquoi il y a autant d'opposition entre les deux en vrai. C'est ça le truc surtout. Pour avoir fait des pick-up games en été avec des joueurs pros, bon ils m'ont mis à l'intérieur, ils m'ont mis pas assez d'adresse, pas assez de handling, mais de handle pardon. Mais Mais ouais, enfin, la dimension physique, elle est quand même là. Elle est différente de la nôtre, évidemment, mais elle est quand même là. Hein. Il y a quand même des contacts à l'intérieur. Ça se bouscule sur les écrans. Il y a beaucoup de mouvements aussi. Ouais. Vraiment, ça s'arrête très peu de courir quand même. Hein. Quand on tombe sur des matchs très rythmés, tu sens que
franchement, les allers-retours.
Physiquement, hein. ouais, le cardio il remonte et puis faut être capable de monter à chaque fois. Hein. Que ce soit pour shooter, pour aller au panier. Donc il y a quand même une dimension physique qui est très importante au basket, hein, qu'on dénigre un peu parce que vous utilisez pas les bras comparé à nous.
C'est vrai que moi j'ai fait beaucoup de basket avec des mecs qui faisaient du hand. Vous faites des fautes parce que vous défendez avec les bras comme ça sur le côté, vous mettez des manchettes, vous savez pas défendre proprement vous les handballeurs.
Non, bah on est gentil avec vous surtout. Hein. T'imagines qu'à ce moment-là on est sympa. Mais par contre, tu vois, à contrario, vous avez des déplacements latéraux qui sont impressionnants.
Ouais.
Tu vois.
Pas toi.
Mais toi, t'avais d'autres qualités. Mais non, c'est sûr que tu vois, c'est moi, je sais que j'en parle beaucoup. Après, Isaiah, quand même, c'est un défenseur élite. Oui, donc, oui. Ça fait que sur ça, la vitesse de déplacement, il est impressionnant. Mais tu vois, c'est par exemple cet été, pour l'anecdote, quand j'ai travaillé avec eux, je faisais le plot défenseur. Et des fois, on me demandait d'y aller un peu plus. Pour moi, c'était excellent, tu vois, dans mon travail.
Oui.
En plus du matin, pendant 4 heures de muscu, tu passes l'après-midi, ou même avant, tu t'entraînes avec eux. Tu défends sur Elio Kobo, tu défends sur Tim, Luau Cabarro, sur Isaiah. Enfin, faut y aller, hein. Et puis, t'essayes de bien défendre en plus, hein. J'essaye de pas aller à la faute, tu vois, avec vos règles. Bon, je suis clairement désavantagé. En plus, je défends sur des mecs. Qui n'ont rien à voir entre Ellie qui passe d'une. Et franchement, c'est une
anguille. Ouais.
Derrière ta team qui vient et qui va au contact. Hein. Tu vois, par exemple, team qui va au contact, qui est très costaud. Et t'as plus virevoltant avec Isaiah. Non, franchement, on peut pas vraiment dire que c'est les mêmes sports, mais on peut pas non plus les opposer à ce point-là.
C'est toi qui avais la moins bonne détente des quatre, par contre. Hein.
Mais déjà que même dans l'équipe là, j'ai eu mon bonne détente. Après, par contre, dans le IQ,
tu m'as un peu
je pense que je peux t'impressionner. Ouais,
T'es un peu le Draymond Green, Lady.
Ouais, je suis un peu. Ouais, franchement, je mets mon IQ un peu plus haut. Ouais.
Très bien. Merci beaucoup, Lady. Le best-of du Stephen Boy, je reviens dans quelques minutes sur AMC. À tout de suite.
RMC, 13h-15h, les meilleurs moments de Stephen Brunch. RMC, 13h-15h, Stephen Brunch.
Stephen Brun.
De retour dans le Stephen Brunch, votre émission préférée chaque dimanche de 13h à 15h. On va démarrer la deuxième heure. On est ensemble jusqu'à 15h pour revivre les meilleurs moments de la saison. Allez, on est reparti. J'ai l'impression que là, on va se transformer un peu en Laurent Veil, critique cinéma
et Télérama Stephen.
Mi cinéma, mi basket, Alex.
Ouais, Le rêve américain, c'est le nom du film qui sort le mercredi 18 février dans toutes les salles. C'est l'histoire de deux grands amoureux du basket qui se rencontrent un jour sur un playground et qui vont former un duo d'agents, de joueurs sans limite, composé de Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, désormais parmi les agents les plus influents de la NBA qui représentent aujourd'hui les intérêts de Nicolas Batum, Rudy Gobert et bien évidemment la superstar des San Antonio Spurs, Victor Wembanyama, interprété à l'écran par Jean-Pascal Zadi et Raphaël Quenard. Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana ainsi que le réalisateur du film Anthony Marciano sont les invités du Stephen Brunch. Le rêve américain à l'affiche le 18 février. Bande annonce.
On va commencer par le plus important. Notre force à nous, c'est le contact avec le joueur.
Comment tu veux que je signe chez une agence qui n'a pas encore sa place en NBA?
Tu veux commencer par le haut du panier direct?
Faut bien bouffer la glace avant le cornet, non?
Tu viens d'inventer celle-là?
Ouais.
Vous avez pas encore les épaules.
Je crois qu'on va commencer par bouffer le cornet. Hein.
Vite, ma mère, qu'on va payer une deuxième chambre. Boudin.
Is French? Oui, French.
Il en abandonne. Passe en riposte.
T'as triché, là.
Tu crois vraiment que j'allais laisser une pièce décédée pour nous?
Inspiré de l'histoire vraie, donc, du début de l'agence Comsport, entretenue par Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, réalisé par Anthony Marciano. Steve.
Messieurs, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous dans le Stephen Brunch. On va d'abord débuter par Anthony Marciano, le réalisateur de ce film-là. Il faut que tu nous expliques, Anthony. Alors, je sais que tu es fan de basket, mais comment t'as cette idée de film? Comment t'as entendu parler de l'histoire de Jérémy Bouna et comment tu dis, tiens, je vais faire un film sur le basket? Parce que l'axe, c'est quand même le basket entouré d'une histoire d'amitié. Mais comment tu dis, tiens, je vais me pencher là-dessus?
Je suivais donc l'actualité basket et surtout NBA. À chaque fois que je voyais des joueurs français en NBA, je voyais toujours les deux mêmes gars, les deux mêmes têtes derrière. Et je me disais, mais qui sont ces gens ? Et donc j'ai creusé un petit peu et j'ai enquêté, j'ai vu, compris que c'était leurs agents. Et quand j'ai compris qu'ils étaient français, c'est là que ça m'a interpellé. Je me suis dit, tiens, comment ils ont fait pour arriver là ? Et je me suis renseigné, j'ai vu des reportages, j'ai lu des articles et j'ai vu leur parcours incroyable, qui n'est fait, comme tous les grands sportifs d'ailleurs, que d'échecs successifs et de persévérance et de détermination. Et surtout, j'ai vu une grande histoire d'amitié et c'est ça qui m'a intéressé au-delà du basket. C'est pour ça que je considère pas vraiment avoir fait un film de basket. C'est plutôt une grande épopée, un parcours, une amitié. Et c'est ça qui m'intéressait, évidemment, dans l'arène du basket qui pourra apprendre plein de choses à ceux qui ne connaissent pas du tout le basket.
Comment on fait alors ça reste un film de sport malgré tout. Comment ça se passe pour filmer les scènes de basket, parce qu'il y a eu j'imagine des accords avec la NBA, parce qu'à un moment donné on voit Lamar Odom qui est un joueur des Lakers jouer. Comment on fait pour avoir
il joue avec notre comédien
oui,
dans la
oui,
scène.
Oui.
Bah ça c'est la magie de Bouna et de Jérémy qui nous ont ouvert les portes de la NBA et qui nous ont permis d'avoir des contacts pour obtenir des droits sur des images qui généralement sont pas autorisées dans les films. Et donc on a eu cette chance-là. Et ensuite, c'était vraiment au service du film. On en a pas fait trop. On a mis les images juste celles dont on avait besoin pour créer des choses. C'est pas des images. Elles sont pas traitées comme des images d'archives. Je précise, elles sont intégrées au film comme si c'était des acteurs du film.
Ouais. On va essayer parce que c'est compliqué de discuter d'un film qui, on rappelle, sort le 18 février et que nous, on a eu la chance de voir. On n'a pas envie de spoiler et de gâcher le plaisir des gens qui vont aller au cinéma voir ça. Mais d'entrée de jeu, il y a une scène qui est mythique. Moi, je vous connais depuis que j'ai l'âge de 18 ans, depuis que j'étais à Cholet au centre de formation. J'étais pas au courant que vous aviez tenté Tony Parker.
Donc, on a même tenté Stephen Brun, mais tu nous as ignorés à l'époque.
Moi, je voulais vous poser cette question.
Faut le préciser, mais évidemment, il nous a snobés. Il voulait même pas échanger avec nous.
Stephen, t'as pas honte.
D'ailleurs, c'est pour ça qu'il a fait une petite carrière.
J'aurais pu être Nowitzki, putain.
Non, mais écoute, 2m4 avec un vrai tir et
puis, ah ouais,
c'est du caractère. Ouais.
Bon, il a exploité 10% de son potentiel. Voilà. Désolé pour lui.
Mais vous allez démarcher le père de Tony. D'ailleurs, le regretté Tony Senior, et il y a vraiment cet échange-là, il est fou, c'est parce que vous ne parlez pas anglais que vous faites recaler.
Écoute, bien sûr, à ce moment-là, Tony est à l'INSEP, oui. Ensuite.
Paris Basket Racing.
Paris Basket Racing. Et donc, on regarde tous les matchs du Paris Basket Racing et on devient un peu amis avec lui, il est charmant. Voilà, il était vraiment agréable. Et donc, du coup, on a tenté, quoi. On a essayé en disant, tu sais, on peut. Bon, il nous a rapidement dit. tu sais, il y a beaucoup de propositions. Enfin, la scène, elle est.
Mais avec élégance.
Elle est réelle, quoi. Voilà.
Toujours avec élégance.
Ça a touché l'ego, ça a touché votre ego, ça.
Écoute, non, c'est une réalité. C'est une réalité. Là, on voulait Tony Parker, mais on n'était absolument pas prêt.
Maintenant, vous l'êtes, hein, apparemment.
Bah, écoute, voilà, il faut un début à tout, mais on a appris. Après, on s'est mis à l'anglais. Jérémy ne parlait pas l'anglais. Moi, je parlais un tout petit peu mieux, mais pas très bien non plus. Bon, on s'est mis à bosser, quoi. On a bossé.
On a vu que vous avez bossé. Et d'ailleurs, il y a une thématique, qui est dans votre rôle d'agent, mais qui est aussi dans le film. C'est l'argent. C'est qu'à un moment donné, au tout début, vous êtes en galère. Il y a ton épouse Bouna qui fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses pour que vous puissiez continuer à faire ça. Est-ce qu'à un moment donné, vous dites, là, on va droit dans le mur, on va crouler sous les dettes, il faut qu'on arrête le carnage?
Non, on n'a jamais douté. Qu'il y ait des galères, qu'il y ait des fins de mois très difficiles ou des journées très difficiles. C'est pas des journées, c'était une décennie. Hein. Enfin, pas se mentir. C'est pendant 10, 12 ans, on gagnait zéro.
On n'avait pas toujours les moyens d'acheter des sandwichs triangles au Monoprix du coin.
Sur des mots, sur la station essence de l'autoroute, il y avait même pas.
Mais il y avait quelque chose qu'on partageait. C'est qu'on croyait en nous et qu'on était tellement persuadés.
Déterminés.
Ça allait arriver. Et donc, du coup, soutenez. Voilà, à un moment donné, ouais, c'est chaud, mais vas-y, on s'accroche. De toute manière, on ne mourra pas de faim. Et on y allait.
Bouna Ndiaye, Jérémy Medjana, les agents les plus connus de France qui ont importé tellement de talents aux États-Unis sont les invités de Stephen Brunch, tout comme Anthony Marciano, le réalisateur de ce film, Le Rêve Américain, qui sort en salle le 18 février prochain avec Jean-Pascal Zadi et aussi Raphaël Quenard à l'affiche.
Il y a quand même une certaine fidélité parce que tous les garçons que vous avez nommés en NBA, ils sont toujours avec vous. On pense à Rudy Gobert, on pense à Nico Batum, à Evan Fournier qu'aujourd'hui on l'a placos. Les joueurs que vous avez amenés, il y en a la plupart, ils sont là avec vous jusqu'au bout. Mais ça veut dire que vous n'avez pas de contrat, vous, en tant qu'agent avec vos joueurs?
Pas la plupart. Non. Les
non,
meilleurs.
Non, on n'a pas
ça. Pas la plupart, les meilleurs.
Les meilleurs,
oui. Bah oui, depuis 15 ans, c'est les meilleurs joueurs français, il faut dire la vérité.
Au départ, j'avais un mentor qui s'appelait Pape Diouf. D'ailleurs, le malheureux Pape Diouf.
L'ancien président de l'Olympique de Marseille.
Première personne au Sénégal à mourir durant le Covid. Et Pape Diouf, il s'est fait. En fait, il me disait le plus important, c'est d'avoir une relation avec tes joueurs. Le contrat ne sert à rien. Et en fait, avec Jérémy, on faisait la même chose. On avait le contrat. Et jusqu'à aujourd'hui, on a le contrat avec personne.
Personne. Donc, vous êtes une agence qui a énormément grandi. Il y a les joueurs NBA, mais il y a aussi les joueuses que Jérémy, ou tu as les plus grandes joueuses de basket français. Tu as des joueurs aussi en Europe, en Betclic Elite. Vous avez des jeunes dans des championnats de espoir ou autre. Comment vous faites? Parce que vous parliez de beaucoup d'amour. Quand vous voyez le film, on voit beaucoup d'amour. Vous vous intéressez à chaque joueur. Il y a la maman de Bouna qui va discuter avec la maman de Didier Mbaga, qui est votre premier joueur en NBA. Aujourd'hui, comment vous faites pour donner autant d'amour? Parce qu'il y a beaucoup de joueurs et de joueuses.
Bah, on est 20.
Donc vous êtes agrandi, vous avez délégué.
On a quasiment embauché une personne tous les 2 ans, on va dire. Alors ça s'est plutôt accéléré après les galères, mais depuis 20 ans, oui, on a quasiment embauché une personne presque par an.
Comment vous assurez que ces personnes-là que vous choisissez, bien évidemment, que vous recrutez, vont faire ressentir aux joueurs exactement la même chose que vous faites ressentir à chaque fois?
Parce que ça, c'est notre capacité de recruter. Notre vie, c'est de recruter.
Donc c'est pas que les joueurs.
On a recruté nos femmes qui sont exceptionnelles. on a recruté des joueurs exceptionnels. On a recruté des salariés exceptionnels. Et en fait, on a des gens qui sont à notre image. Et en fait, il y a des dénominateurs communs chez nous qui sont importants. C'est évidemment le côté humain. C'est-à-dire des gens droits, des gens, voilà, honnête. Staff, il connaît Flo Collet, par exemple, hein, c'est un des plus anciens agents après notre binôme.
On le voit dans le film.
Voilà, et Flo Collet est un agent qui grandit tous les ans depuis qu'il a intégré comme sport, et c'est aussi un agent exceptionnel.
J'aimerais rebondir juste là-dessus. Moi, j'ai raconté l'histoire d'un parcours de deux gars qui partent de rien pour aller réaliser quelque chose que personne n'a encore réalisé en NBA. Mais c'est aussi un parcours de deux gars bien, qui se comportent bien avec les gens et qui ont de l'éthique. Et ce qui est rare dans ce métier, quand on parle d'agent, on imagine souvent des histoires d'argent,
de mensonges, d'aller
les voler les joueurs aux autres, de faire un procès à un joueur qui nous a trahi. Ils ont toujours regardé devant. Ils m'ont dit, on n'a jamais fait de procès à personne parce que c'est un mauvais karma. Nous, on regarde le suivant et on avance. Et moi, c'est cet état d'esprit-là qui m'a inspiré et qui, je pense, inspirera. Moi, je vois là les séances qu'on fait avec les mamans qui sortent du film et qui me disent, je vais amener mes enfants parce que je veux qu'ils apprennent ces valeurs-là dans la vie. Je veux qu'ils apprennent cette façon de travailler, cette façon de rêver grand et surtout de bien se comporter en tant qu'être humain.
Vous avez eu Rudy Gobert, Nicolas Batum qui ont été des joueurs NBA exceptionnels, mais là vous avez un garçon qui est au-delà de tout ça, qui est Victor Wembanyama. Vous l'avez amené à la draft, vous l'avez amené numéro 1 à la draft,
non, premier joueur français. On a fait une tournée à Las Vegas d'abord.
Tournée à Las Vegas quand il est au 1m92, ce qui n'avait jamais été fait. Ensuite, vous l'amenez à la draft, c'est le premier joueur français à être numéro 1 de draft. Il y a quelques semaines, c'est devenu le premier joueur français à être starter All-Star Game. Est-ce que c'est... Vous avez connu beaucoup de choses, hein, les re-signatures de contrat de Nico, de Evan, de Yann Maimi, de tous ces garçons-là. Mais est-ce que là, c'est un autre level à gérer, que ça soit au quotidien, que ça soit dans sa carrière, quand ça soit quand il a blessé sa thrombose l'année dernière? Est-ce que vous avez eu peur que ça soit fini aussi pour ça? Est-ce que c'est trop grand? Est-ce que c'est même trop grand pour vous parfois à gérer, Victor?
Steph, c'est pas le next level? C'est the last level.
C'est the last level.
Exactement. C'est, il n'y a pas plus haut que ça sur la mentalité, si on a envie d'être le meilleur.
Sur son potentiel, et puis
sur son potentiel, sur qui il est, physiquement, morphologie, mais aussi intellectuellement, mentalité. C'est the last level. Il n'y a pas plus haut. Et tous les jours, c'est challenging, mais c'est.
J'allais dire, c'est un défi pour vous, ça.
C'est énorme.
Ouais, mais c'est, on adore. Parce qu'en fait, on a pu se préparer pendant 25 ans avant de, en fait, pendant une vingtaine d'années avant de s'occuper de Victor. Et je pense que si on n'avait pas été effectivement, aux yeux de Victor et ses parents, à même de pouvoir l'accompagner, ils auraient fait un autre choix. C'est qu'ils ont, voilà. Et puis il y a aussi une partie, la partie humaine qui compte énormément pour eux.
Vous avez Victor depuis longtemps, vous le suivez. À partir de quel âge vous vous dites avec Bouna, parce que vous avez des connexions tous les deux, je sais pas, un petit clin d'œil, vous vous dire,
c'est lui.
Je pense que c'est lui qui va être numéro un draft et peut-être, peut-être que ça va devenir le meilleur joueur de.
Non, mais je vais t'arrêter direct comme ça. Jérémy m'a bombardé pendant un an et demi. Faut que t'ailles le voir, il est trop jeune. Ça va être le meilleur joueur de l'histoire.
13 ans.
13 ans.
Ça va être le meilleur joueur de l'histoire.
Sans spoiler, il y a une partie un peu racontée comme ça dans le film, hein, de toute façon.
Ça va être le meilleur joueur de l'histoire.
Et toi, tu dis,
calme-toi. Mais cette force qu'il a de croire que. Et à chaque fois qu'il a cru, ça marchait. Hein, quand il a vu DJ Mbenga et qu'il m'a appelé, comme dans la scène du film, en me disant. J'ai trouvé notre premier joueur NBA, viens tout de suite. J'ai dit, là où je suis, c'est impossible. Je partais, je divorçais, je crois. Parce que bref.
Les gens verront.
Et après, ok, je t'appelle avec lui. Le joueur, il sort du match, il m'appelle avec lui. Et quand il m'a dit, il faut que tu y ailles, il faut que tu ailles le voir. Et parce que c'est jamais vu. Et tu as tout le monde dessus. À un moment donné, j'ai dit, ok. Quand je suis allé, j'ai vu rapidement.
T'as vu rapidement.
Ah, j'ai vu rapidement.
Vas-y.
Bouna Ndiaye et Jérémy Medjana, les agents de Victor Wembanyama, Nicolas Batum, Rudy Gobert sont les invités de Stephen Brunch, tout comme Anthony Marciano, le réalisateur du film Le Rêve Américain en salle le 18 février, qui raconte justement l'histoire vraie de comment Bouna et Jérémy ont conquis la NBA en étant les agents les plus connus de France.
Il y a une prochaine étape pour vous en tant qu'agent, c'est à partir du, je crois, du 1er juin 2026, Victor est éligible à un nouveau contrat. Je crois que le plus gros contrat jamais signé, c'est Tatum, qui a 315 ou 316 millions de dollars sur 5 ans. On va faire péter le record ou pas ?
Écoute, je ne sais pas si c'est une question qui se pose, dans le sens où la logique des choses, c'est qu'il n'y aura pas de négociation. C'est Victor, je veux dire, avec ce qui est en train de se passer aux Spurs. Ils sont aujourd'hui en position de...
Attends, deuxième de la conférence Ouest.
Ils ont quand même tapé OKC 3 fois sur 4.
Tu veux dire que c'est la négociation la plus facile de votre vie ?
C'est sûr. Il n'y a pas de négociation.
Il y a intérêt même.
Il n'y aura pas de négociation.
Il n'y aura pas de négociation. Le chiffre, vous l'avez en tête, ça sera ça ou ça sera, ailleurs ?
Je ne connais même pas le chiffre, mais...
Pourquoi ? Il y a trop de numéros, Bouna ?
Non, je ne suis pas allé regarder. On n'est pas...
On n'y est pas encore.
On n'y est pas encore. Là c'est...
Faut pas lui porter l'œil non plus.
Peut-être l'année des Spurs.
C'est peut-être l'année des Spurs.
C'est ce que je dis.
On rappelle qu'ils sont deuxième de la conférence Ouest actuellement et qu'ils sont au-delà des attentes, en tout cas de début de saison. Ils surprennent tout le monde.
Ils sont jeunes et il reste 40 matchs.
Exactement. Merci beaucoup, Jérémy. Merci, Bouna. Merci, Anthony. Le rêve américain qui sort en salle le 18 février.
On l'a vu, franchement.
J'ai déjà vu. Je pense que je vais le voir une deuxième fois parce que souvent, il y a des personnages cachés. Je crois que j'ai aperçu Jérémy Bouna en train de boire un canon dans un bar, mais je vais quand même aller le revoir pour voir si c'était vraiment eux.
T'as l'œil.
Écoute, il y a nos femmes, il y a tous les joueurs, tous les personnages de Comsport.
Flo Collet, Omar, Issa, ils sont tous là.
Ils sont là et franchement, à ne pas rater.
Et plus jamais tu auras de mecs dans ton bureau à éplucher les comptes parce que ça va pas au bout là. On te le souhaite.
On est plus sereins.
Merci beaucoup. À bientôt. Ciao.
Interview donc à retrouver aussi en intégralité sur le YouTube d'RMC, RMC Sport et aussi sur toutes les plateformes.
RMC jusqu'à 15h. Les meilleurs moments de Stephen Brunch.
Stephen Brunch.
Le basket et cette question, la rivalité Paris-Monaco. On le rappelle, le match c'est ce soir à 19h. Est-ce que cette affiche peut relancer l'intérêt pour le championnat de France de basket ?
Bien entendu, il y a des intérêts, c'est ça ?
Je pense qu'il y en a un petit peu. Hein. Mais pour en parler, il y a quelqu'un qui ne mâche jamais ses mots. Stephen, on l'accueille dans Stephen Brunch, c'est Laurent Sierra.
Ouais, Lolo Sierra est avec nous. Salut Laurent.
Salut les gars.
Salut Laurent.
Tout va bien.
Merci d'être là. On rappelle que Lolo Sierra commente chaque semaine l'Euroleague et l'équipe de Monaco sur TV Monaco. Donc il a un jugement. Il a joué à Pau aussi. Il a vécu des classicos Polymoles.
Il a fini sa carrière à Pau même, je crois.
Il a joué à Paris. Voilà, une carrière exceptionnelle. Lolo, t'es en pleine forme. Tu passes un bon week-end.
Écoute, tout va bien.
D'accord, t'as pas envie de parler, Lolo ?
Si, non, mais tout va bien, mais qu'est-ce que tu veux que je relance ? T'as donné que 3 clubs, j'ai joué dans 15 clubs, comme toi, au moins, on a fait tout championnat de France, donc au bout d'un moment...
Mais c'est parce que tu te faisais virer comme moi, ou c'est parce que t'avais juste à bouger ?
Non, pas virer. Hein. Toi, tu t'es fait... Même pas quand tu t'es fait virer, t'as été payé ou pas ?
Oui, et toi ?
Mais oui,
Tout va bien dans le meilleur des mondes, c'est magnifique. Laurent, ce soir, Paris Basket, Monaco, c'est à 19h, troisième journée de Betclic Elite. Évidemment, c'est le grand choc que tout le monde attend, mais c'est vrai que ce championnat de France de basket a perdu peut-être un petit peu en intérêt, ou en tout cas en visibilité, j'ai envie de dire. Et est-ce que cette affiche, pour toi, peut relancer cette rivalité, même est-ce qu'on peut appeler ça une rivalité, peut relancer l'intérêt de ce championnat de France?
Non, mais le championnat, je pense pas que ce soit là le problème. Le problème, c'est est-ce qu'on est un sport porteur comme on veut ou on pense imaginer. Après, il y a quand même des grosses locomotives, que ce soit Monaco, Paris, l'ASVEL, un degré moindre, mais il y a d'autres clubs qui travaillent bien. On a cette chance, et Stephen est quand même un des acteurs, d'avoir maintenant une journée le dimanche à 19h, d'avoir la chance d'être en direct. Et en clair pour beaucoup d'équipes. Alors on a aussi la chance qu'on aura toujours un des trois clubs, j'imagine, de l'Euroleague qui va faire partie de cette affiche. Mais forcément, là, c'est deux grosses cylindrées du championnat de France. Pour Monaco, c'est quand même un test important aussi. Pour Paris, avec tous les changements qui ont eu lieu dans cette équipe, ça reste aussi un test important. Mais voilà, est-ce que le basket, on n'est pas véritablement à notre place et c'est ça la question qu'il faut se poser. C'est pas parce qu'il y a Monaco Paris, est-ce que le basket dans sa globalité est pas juste à sa place, tout simplement?
Oui, t'as raison de poser la question, Laurent. Après, je suis pas sûr que c'est une rivalité qui est quand même particulière. C'est une rivalité qui est neuve. Il y a des gens qui utilisent le terme classico. Pour moi, c'est pas assez classico.
Non.
Paul Limoges restera le seul et unique classico du basket français. Et pour qu'il y ait une rivalité, il faut que ça soit au-delà du terrain. Aujourd'hui, il faut que ça soit un duel de passionnés, que la communauté monégasque et la communauté parisienne s'affrontent au-delà du terrain. Et aujourd'hui, force est de constater que la communauté monégasque, elle est pas ultra présente. Les antagonismes qui se créent à l'époque, ils se sont créés parce qu'il y avait des présidents emblématiques, l'emblématique Pierre Seyant, le président de
à la Moutette, il y avait de la bagarre.
À Moutette ou à Beaublanc, ça se lançait des scuds. Aujourd'hui, les présidents respectifs, que sont David Kahn et Monsieur Fedoritchev, ne sont pas coutumiers de ces punchlines envoyés.
On adorait se détester à l'époque.
Oui, aujourd'hui c'est trop gentil. Et puis il y a des effectifs qui sont en perpétuel renouvellement chaque année. Alors il y a Nadir Hiffi qui est un petit peu la tête d'affiche du Paris Basketball et qui permet une identification, pardon. Mais des garçons, des gens qui sont allés à l'Adidas Arena l'année dernière et qui vont peut-être y retourner ce soir, vont se dire attends, ils vous sont passés tous les joueurs qui sont champions de France, ils sont plus là. Et Laurent parlait d'une affiche à 19h. Et je suis bien placé pour en parler. Le problème, c'est que la chaîne L'Équipe, les deux premières journées, c'était à 19h. Et voilà, et encore une semaine ce soir, Laurent disait qu'on n'est pas à notre place. La preuve que si, on a notre place, puisque ce soir, c'est pas diffusé sur la chaîne L'Équipe. La chaîne télé, c'est diffusé sur la plateforme
numérique. C'est pas en clair,
pourquoi
ce soir.
Pourquoi? Parce qu'il y a des matchs de qualification de football européen.
Ah ben donc les gars, on répond à votre question du départ.
C'est
tout. Maintenant qu'il n'y a plus de classico, je suis d'accord. Mais est-ce que c'est pas devenu aussi le sport en général? Parce que maintenant, les mecs ils parlent plus, ils osent plus s'exprimer. Il y a plus cette espèce de référence au clocher. Là, c'est des multinationales, c'est de l'argent facile. Mais le sport est devenu comme ça.
Oui, donc il y a aucune saveur de rivalité, quoi.
Non, mais quelque part, on pousse à ça aussi, parce qu'on multiplie les matchs, on multiplie les contrats. Les mecs ils ont pas le droit de s'exprimer, que ce soit au basket, au rugby, au football. Les mecs ils ferment leur gueule parce que gentiment, la bouffe est bonne. Donc tu te vois te monter contre l'institution et dire non mais attendez les gars, c'est fini ça, c'est fini les gars.
Et puis c'est des clubs ultra clivants, Monaco et Paris Basketball, par leur histoire, par leur genèse, par leur création, ce sont des clubs qui sont pas très appréciés par le terroir qui est ce basket français là. Et rappelle-toi Laurent, quand il y avait un joueur de Limoges qui signait à Pau plus tard, ça faisait des scandales. Aujourd'hui, Kevin Hussein qui était à Paris l'année dernière, qui arrive à Monaco cette année, il n'y a plus personne qui bronche.
C'est qu'à Monaco, tu leur demandes où il était l'année d'avant, ils ne savent même pas.
Mais oui.
Parce que c'est devenu comme ça. Mais il n'empêche que si on reste un petit peu passionné, ce qui est ton cas et le mien, on veut voir quand même ce qui va se passer.
Ah oui.
Parce que c'est quand même deux grosses cylindrées du championnat qui sont pareilles en Euroleague, deux victoires, une défaite, des équipes qui tiennent la route. Alors après, on peut toujours estimer Monaco, Mike James, c'est d'un côté et de l'autre. Là, moi, je le connais pas, Nadir Hiffi, je trouve qu'il amène un peu ce côté un peu ni deux ni mettre. Voilà, moi j'ai envie de m'installer comme leader. Le petit Strazel, à son niveau, il dit un jour j'aimerais être capitaine de l'équipe de France. Donc on peut le prendre comme quelque chose d'un peu farfelu, un peu fou, mais heureusement qu'il y a un peu ça. Parce que sinon, c'est d'une tiédeur. Pour, et heureusement, Stephen, qui a vu aussi cet épisode Mike James, parce que si pendant l'été, il n'y a pas d'épisode Mike James, c'est pas le recrutement de Monaco qui te fait sauter de ton canapé quand même.
Non, parce que alors ça reste pour les spécialistes. Ça reste des spécialistes. Alors Mike James est le meilleur scoreur de l'Euroleague. Il a été sanctionné par le club. Il se murmurait qu'il n'allait pas revenir. Bref, parce que pour les spécialistes basket, la signature de Nikola Mirotić, c'est un énorme joueur, mais pour le commun des mortels, Nikola Mirotić, personne ne le connaît, Lolo. En fait,
c'est clair. Donc on répond nous deux depuis des années qu'on se côtoie. De se dire, peut-être que notre sport, il est véritablement à sa place.
Bah, prenons un troisième avis, Laurent. Il y a Maxime Potty également autour de la table.
Un streamer, lui, qui n'est pas passionné, enfin qui aime bien le basket, mais qui n'est pas passionné comme nous.
Oui, mais il va être passionné de la NBA. La NBA, c'est pas le basket, les amis.
C'est un beau point soulevé parce que je me suis embêté à aller voir des finales NBA une fois à Boston. Donc voilà, donc j'ai quand même un amour du basket.
Il y a du Massachusetts.
Tu t'es pas embêté à avoir une finale NBA à Boston quand même.
Je suis embêté, je rigole, c'est une blague.
Est-ce que tu as bien mangé? Est-ce que tu as bien mangé par contre?
J'ai pris quelques kilos. J'ai vu mon équipe se faire rousser par Steph Curry en finale NBA. Bon, ouais, passons. Revenons au basket européen, mais qui est cool aussi. Et en fait, à la question, est-ce que la rivalité Paris-Monaco peut relancer l'intérêt du championnat? Moi, je ne pense pas, parce que je pense que c'est des équipes qu'on va vivre et qu'on va supporter à travers de l'Euroleague, qui en plus, potentiellement, avec l'arrivée de la NBA Europe, va prendre encore plus de place. Et que je trouve qu'il y a quand même d'autres intérêts qu'on peut aller chercher dans cette Betclic Elite. Qui est la première? Moi, ce que j'aime bien avec le basket français, avec ce championnat, c'est que c'est un sport qui permet à des villes d'exister sportivement, là où dans d'autres sports, elles ne pourraient pas. Dans le foot, il te faut un énorme stade, il te faut des budgets monstrueux. Là, aujourd'hui, avec un budget de 6 millions d'euros, quand tu es une plus petite ville, tu peux avoir un club dans l'élite qui peut faire de très belles choses. Donc, je trouve que ça met en avant des villes en France qui peuvent exister sportivement dans ce sport et pas.
Non, mais t'as besoin des deux. T'as besoin des villes du tiroir, mais t'as besoin aussi de grandes villes.
Non, il te faut des locomotives. T'as pas de locomotives, tu meurs.
Mais les grandes locomotives, on va les suivre à travers l'euro. Et on parle de l'intérêt du championnat. Monaco-Paris, même un peu l'ASVEL. On va commencer à regarder, entre guillemets, les matchs. Je parle pour ceux qui sont pas les fans ultimes du basket, sur les playoffs, sur la fin de saison. Et avant ça, je trouve qu'il y a des belles histoires à raconter sur justement des villes comme ça qui peuvent exister. Et l'autre truc, je pense que c'est quand même un championnat qui permet une émergence des talents. On a quand même des numéros 1 de draft NBA qui viennent de la Betclic Elite. Et je pense que l'intérêt qu'a eu ce championnat, quand on a eu Victor Wembanyama, là on n'en parle même pas, je pense que c'est peut-être l'année où ça a été le plus suivi.
Oui,
Zachary Rizaché. Et je pense
s'il y a plus ça, parce que là on est parti pour quelques années de disette au niveau de la draft. Je pense que pendant un moment, on n'aura pas de Tobias. Qu'est-ce qu'on fait au-delà de ça? Si on n'a pas de mec drafté, ça veut dire que personne ne s'intéresse au championnat.
C'est l'un des dangers, c'est qu'il faut que tu fasses émerger des talents, il faut que tu racontes les histoires des jeunes talents qui arrivent, parce que je pense que c'est l'une des clés pour donner de l'intérêt à ce championnat, et que la simple rivalité Paris-Monaco ne suffit pas, je pense, aujourd'hui, notamment avec l'émergence de l'Euroleague, quoi. Enfin, l'émergence, vous m'avez compris, avec l'intérêt porté sur l'Euroleague.
On va peut-être prendre l'avis également de Paul qui nous appelle au 32-16. Salut Paul.
Salut messieurs, comment ça va?
Salut Polo, ça va?
Ça va et vous?
T'es en forme?
Ça va pas mal. J'étais au match d'Euroleague d'ailleurs contre la Virtus là début de semaine. Là, c'était cool.
T'as régalé.
C'était l'occasion de voir les nouveaux joueurs de Paris. Et c'est vrai que c'est ce que je disais un petit peu dans mon message au standard. C'est-à-dire que d'une rivalité, il va falloir que Paris puisse garder au moins plus de deux saisons une ossature d'équipe. Parce que c'est vrai que bon, nous on est contents du recrutement quand même. C'est quasiment que des joueurs d'Euroleague, plus Tokosi qui était quand même un gros marqueur défensif l'année dernière à Dijon. Mais pour que le public puisse s'approprier cette équipe, il va falloir qu'on s'approprie aussi nos joueurs. Kevarius Hayes, très compréhensible sa décision d'aller à Monaco quand Monaco t'appelle. Mais t'es dans l'autre gros club de France qui vient d'être champion. Si ton club n'arrive pas à te retenir pour essayer de construire un petit peu une équipe qui va ressembler un petit peu à son public, ça va pas être facile.
Putain Lolo, on a trouvé un mec qui est pas content du transfert de Kevarius Hayes à Monaco.
D'après moi, il n'a pas cœur. Hein. Non, mais en même temps, Paris, c'est le drame de notre championnat. C'est que tu as réussi à garder t'as gardé 6 gars sur 2 ans, à peu près. T'as remodé ton équipe, t'as perdu le MVP incontournable TJ Short parce que
qui finalement pas jouer à Pala.
Tu peux pas t'afficher parce qu'après on fait les malins, mais il y a aussi une idée et puis surtout un truc économique. quand tu peux pas rivaliser, quand je vois, quand j'entends, parce que j'entends que Ifib devait venir à Monaco et que c'est Omar Sy qui a mis la main à la poche pour le faire signer un million d'euros, vrai ou pas vrai, je sais même pas si c'est ça.
Mais ah, ou alors il a promis un rôle dans Lupin, peut-être la saison 3, non?
Peut-être, ouais. Non, mais je veux dire, quand tu en es à tout ça, c'est là où nous, Steve, on n'a pas d'excuses. Nous, on le sait parce qu'on a été acteur de cette ligue. On sait comment ça se passe. Et c'est là où tu as la chance de t'être appuyé sur 5-6 mecs pendant 2 ans. Tu as produit un basket tellement fou que même les autres managers de l'Euroleague se disent « Mais attends, ils vont pas tenir et les mecs tiennent. »
Et ouais, que là, comment défendre.
Et que là, forcément, tu te dis, mais à quoi on va s'attendre sur ce pari-là ? À Monaco, il n'y a pas de surprise, Steve, tu le sais très bien. Ça tourne autour de Mike James.
Oui,
mais... Et encore, il est revenu dans une forme incroyable après l'été qu'il a eu. Le recrutement n'est pas non plus clinquant. Si tu m'en rajoutes juste Nikola Mirotić, ok. Mais la plupart des gars étaient sous contrat. Mais je rejoins Paul sur Paris. Tu te dis, waouh, tu jettes une pièce quand même. Et malgré tout, tu changes le coach, tu changes le staff, tu changes les joueurs. Et ils vont essayer de se rapprocher au maximum de ce qu'ils ont fait, mais c'est impossible parce qu'ils ont fait un basket tellement dingue. J'en discutais avec Maurizio Gherardini avant qu'il quitte
Fenerbahçe. Un basket qui n'existait pas avant.
Mais non, mais Stéphane, c'était un truc de fou. Tu te dis, mais les mecs, c'est des barjots. Shooter un match contre Berlin, de mémoire, je crois qu'ils ont shooté 54 fois à 3 points. Tu. En France, tu te dis, non, attends.
Alors que toi, t'as mis 3 ans pour tirer 54 fois à 3 points.
C'est sûr que toi, à 3 points, il te fallait 3 matchs. Quoi. C'est ça, c'est sûr. Bon, mais tout ça pour dire que c'est devenu tellement un produit. Maintenant, en plus, on rajoute, parce que vous en avez parlé tout à l'heure, on rajoute là la NBA, soi-disant NBA Europe, qui va venir bouger toutes les lignes et qui va affoler tout le monde. Donc là, forcément, déjà qu'on a. Et je trouve que la Ligue.
Ça t'emballe pas ce projet, toi, la NBA Europe, Lolo?
Non, ça me plaît. C'est pas que ça me plaît pas. J'estime depuis longtemps, on fait le même sport. Du moins, on s'appelle de la même façon le basket, mais c'est pas le même sport. C'est un avis personnel.
Déjà, au niveau des règles, c'est pas les mêmes.
Ouais, des règles et puis même de la façon de voir les choses. Et je trouve que malheureusement, on les copie tellement. Regarde une situation toute simple. Tu es plus 3, la possession est l'équipe en face, il reste 10 secondes à jouer. Avant, toi et moi, on t'aurait dit, tu mets un coup de hache, et le mec, il va gagner le match devant tes francs.
C'est ce que tu dis, Laurent, on les copie trop.
Oui, on copie, mais surtout. Donc, il est bien gentil, le président de l'Euroleague, là, le lituanien, de dire, oh, non, mais j'ai posé mes conditions, je ne suis pas sûr qu'il ait les reins solides
et les épaules là pour
dire à la NBA. Ça sera mes conditions ou sinon.
Mais il dit qu'il veut que les Européens gardent la main mise, en tout cas,
mais c'est impossible. Si demain il y en a un des gros, le Real, le Pana, Olympiakos, Fener, Efes, qui décide, parce qu'on va te dire le droit d'entrée c'est 30 millions, mais derrière tu peux en récupérer 100, excuse-moi, c'est du business. Donc c'est ça qui me rend fou encore plus du sport en général, mais dans mon sport, dans ma passion, quand tu débordes comme ça, comme cette équipe à Dubaï, qui d'après moi va faire rire toute l'Europe, parce que alors eux ils vont faire rire toute l'Europe.
La bonne nouvelle, c'est que Monaco n'est plus la plus mauvaise ambiance de Euroleague, hein. Ce sera Dubaï, Lolo.
Oui, alors après, Stéphane, tu vas pas m'attaquer sur Monaco, je suis un mec de Nice, même si
il y a une rivalité.
Non, mais bien sûr, tu peux plaisanter avec moi, tu peux énormément plaisanter, mais il y a une rivalité, mais moi je suis pas loin, ça me fait plaisir qu'il y a un club d'Euroleague à 10 km de chez moi. Mais je me dis, mais quand on en est même à ça, à accepter ça pour se faire un trésor de guerre, pour éventuellement partir à la guerre contre la NBA, Stephen, c'est combien de milliards par an de droits télé? 11 milliards.
Oui, on se barre en 60. Le contrat, il est à 74.
Mais tu t'imagines, comment tu veux lutter même avec la meilleure des volontés?
On est très loin de Polymoges, là, effectivement. Pour revenir sur la genèse de notre débat, c'est qu'à un moment donné, quand tu es obligé, parce que pour l'instant, tu la crées de toutes parts, cette rivalité Paris-Monaco, quand tu es obligé de créer des histoires sur des clubs qui sont très récents comme ça, c'est que tu n'as pas beaucoup d'autres choses à proposer. Donc tu
n'as pas de marge.
Et voilà.
Tu es en caleçon et t'espères que éventuellement. Oui, non, mais pour ceux qui mettent des slips, c'est quand même assez vieillot le slip. Après, t'essaies de te raccrocher comme tu peux. Regarde, on a fait cette super coupe qui a jamais existé. On tente des choses pour essayer d'amener un peu de lumière sur ce sport qui est bien, mais on aura toujours, malheureusement, tu vas pouvoir parler avec qui tu veux. Les mecs vont te faire une comparaison avec la NBA.
Et oui, mais parce qu'on est le seul sport aussi, Lolo, qui est vampirisé par une ligue au-dessus des autres, en fait. C'est la problématique.
Tout à fait. C'est vrai. Parce que, mais en même temps, et en plus, nous, on a la bonne idée de produire des garçons qui sont premier tour de draft, ou qui sont cinquième, ou qui sont sixième, ou qui sont septième, parce qu'on te targue là aussi la formation française. Mais je sais pas si ça suffira. Et là, c'est quand on ose me dire le classico, c'est devenu Paris-Monaco. Non, moi je vous dis non, c'est même pas un rêve.
Et c'est pour ça qu'on souhaite que Paul Lacortez revienne rapidement en Betclic, qu'on puisse de nouveau avoir des pots Limoges.
Et avoir des saints en clair aussi, on souhaite.
Je le sais très bien, il y a quand même des clubs qui travaillent bien.
Bourg, c'est très bien, Le Mans, ça travaille très bien.
Ça travaille très bien avec des moyens quand même restreints.
Oui.
Quand on regarde le 5 majeur de la finale de la Supercoupe, Mike James, Okobo, Alpha Diallo, Nicolas Mirotić, Daniel Tanks, d'après moi, c'est le double budget du Mans.
Oui.
Les finalistes. Parce que
tu parles d'argent, mais ce que tu avais, le budget de Monaco, ça serait 15e budget de Ligue 1 et top 5 de top 14, hein, le budget de Monaco. Oui. 39 millions.
Donc on est. Voilà, ça me fait chier parce qu'on fait du mal à mon sport. Mais en même temps, il ne faut pas non plus rester avec des images d'antan, de clochers, même si on est un sport de territoire. Mais je pense qu'il faut être capable de s'ouvrir. Mais si en ouvrant, on nous dit juste c'est David Kahn contre Fedoritchev, non, je pense qu'on peut trouver autre chose. Et quand tu vois l'attitude, même des fois, des gens de Monaco ou même de Paris, quand j'en discute avec les gens de la Ligue, même s'ils me disent que Monaco, personne ne les embête, quand j'entends les gens de la Ligue me dire la façon dont les gens de Paris les prennent avec un côté hautain de leur dire « mais nous, on sait travailler, on n'a pas besoin de vous », et ça pourra pas matcher. Ouais. C'est pas possible.
Il y a un peu de rivalité là-dedans. Merci.
Lolo, t'es content d'être venu dans mon émission?
Écoute, j'espère que tu m'inviteras pour un autre débat.
Un débat, tu veux faire quoi? Du foot, du rugby?
Non, ce que tu veux. Ça me fait plaisir que tu aies pensé à moi pour ce débat.
Eh ben, c'est très gentil. Bon,
j'ai pas sorti de saucisse, je vais pas crier mon slogan qui m'a valu de suspension.
Je vois Christophe Cessieux là, en régie. Bah,
il est content parce que c'est le Nissart, tu le sais. Les chips à la soca, il le sait.
Merci beaucoup, Lolo. Passe
les gars, bon après-midi.
Bon dimanche.
À bientôt.
Ciao.
On remercie Paul également qui est passé en France pour parler de ce Paris-Monaco.
RMC. 13h-15h, les meilleurs moments de Stephen Brunch.
Stephen Brun.
C'est l'heure de te revoir, un très grand du sport français.
Eh oui, c'est un monument du ski français. Alexis Pinturo, il a annoncé hier qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison à bientôt 35 ans, après 17 ans sur le circuit. Le plus beau palmarès du ski français a glané 3 titres de champion du monde, 3 médailles olympiques, 1 en argent et 2 en bronze, 5 petits globes de cristal ainsi que 34 victoires en Coupe du Monde. Il est l'heure d'accueillir Alexis Pinturo.
Salut Alexis.
Salut à tous.
Salut Alexis, je représente tout le tour de table du Stephen Brunch. On est avec donc Stephen, avec Maxime Potti, avec Léna Marjac et Sébastien Amier aussi, qui ne pouvait pas manquer ce rendez-vous. Stephen qui est là pour accueillir le monument du ski français, Alexis Pinturo.
Ouais Alexis, écoute, merci d'être avec nous dans le Stephen Brunch, le lendemain de ton annonce que c'était la fin pour toi après cette saison. On va juste parler, parce que tu devais ouvrir le Super G une dernière fois devant ton public, le Super qui a été annulé. J'imagine que tu es un peu frustré, non?
Ouais, ça c'est un peu décevant, surtout quand on voit le temps qu'il fait en fin de compte aujourd'hui. Malheureusement, le revêtement n'a pas permis de mener à bien cette épreuve. Après, on trouvera peut-être d'autres moyens de communier tous ensemble avec le public français.
Alexis, hier, tu as fait une conférence de presse chez toi à Courchevel pour nous annoncer que c'était fini pour toi le ski de très haut niveau en compétition. Tu as dit que la décision, ça fait longtemps que tu l'avais en tête, tu l'as officialisé hier. Comment on se sent le lendemain d'avoir officialisé sa retraite?
Pas différent de la veille. Je pense un peu plus léger peut-être, parce que du coup, j'ai partagé ce que j'avais en tête depuis longtemps. Mais vu que je suis, on va dire, clair avec cette décision, clair aussi avec le fait que c'est quelque chose que j'avais mûrement réfléchi, et donc je suis heureux parce que je sentais que c'était le moment, et en même temps je suis conscient de toute la chance que j'ai eue d'avoir partagé tous ces grands moments et toutes ces belles choses que j'ai pu vivre.
On va revenir avec toi sur cette carrière exceptionnelle, mais j'ai envie de parler de ce qui s'est passé récemment, c'est-à-dire les Jeux Olympiques. Est-ce que la non-sélection pour toi aux Jeux a été un accélérateur pour annoncer ta retraite?
Non, alors justement l'objectif c'était de rien dire, si jamais j'allais aux Jeux, c'était de rien dire jusqu'aux Jeux Olympiques et éventuellement de le dire quand les Jeux étaient finis, parce que en fait je voulais pas avoir les fameuses questions tout au long de la saison de bon bah c'est ta dernière à Zolden, c'est ta dernière à Val d'Isère, qu'est-ce que t'en penses, comment tu te sens, est-ce que tu te sens un peu différent, un peu tout ça. En fait je voulais pas avoir ces questions là je voulais rester le plus possible concentré sur la performance, me donner aussi le plus de chances de faire les plus beaux résultats et sans être forcément pollué par tout ça et toutes ces questions. Et là aujourd'hui il reste plus qu'une seule épreuve, il fallait forcément là aussi l'annoncer à un moment ou à un autre. Donc l'objectif initial c'était plutôt de le faire au jeu, mais en fin de compte on a pu le faire ici à Courchevel et c'est aussi quelque chose de très bien et de formidable de pouvoir le faire avec la famille et les proches autour de soi.
Avant de donner la parole bien sûr à Sébastien Amier et Léna Marjac, on a plein de questions pour toi Alexis, il y a notre escrimeur maison Maxime Poitier qui voulait aussi te parler. Maxime.
Oui bah escrimeur d'ailleurs quand il passe à l'INSEP, les skieurs. Moi je pensais qu'en escrime on avait les meilleures cuisses, mais en fait voilà, on se fait défoncer mais justement,
et nous on se fait défoncer par les pisteurs, par les pistards.
Ah oui, les pistards c'est encore autre chose, voilà. Mais bon, en tout cas en termes de gainage et de capacité à tenir sur les cannes, le ski c'est très costaud. Et ben justement moi ma question c'est qu'est-ce qui fait qu'on a envie d'arrêter, parce que 34 ans en fait c'est dans le sport de haut niveau aujourd'hui c'est pas si vieux. C'est quoi, c'est la tête qui a plus envie ou c'est le corps, justement on parlait du physique qui suit plus et tu sens que t'as atteint ton plafond de verre?
Non, je pense que c'est plus la tête, en effet, dans le sens où il y a arrivé à un moment, il faut toujours trouver des nouvelles motivations. Qu'est-ce qui va nous porter? Qu'est-ce qui va nous donner cette carotte qui nous fait lever le matin? Et au fur et à mesure, je sentais que les Jeux Olympiques c'était une belle raison pour moi. Et de pas finir aussi dans un lit d'hôpital, parce qu'après ma blessure de l'année dernière, c'est quand même un luxe de pouvoir choisir quand est-ce qu'on décide d'arrêter et non pas quand c'est contraint. Donc ça, c'était deux sources de motivation, déjà de faire cette saison supplémentaire, mais surtout derrière, après ça, il y avait plus grand chose. Il y avait plus grand chose qui m'animait, ou en tout cas qui m'animait de manière suffisante. Et je sentais que, du coup, c'était le bon moment pour ça. Il faut aussi être conscient à certains moments que quand le corps nous dit que pour certaines choses, on doit se forcer un peu plus que par le passé, là où on faisait les mêmes choses de manière complètement naturelle. C'est aussi des signes avant-coureurs où le corps nous dit, peut-être qu'il faut réfléchir à commencer à faire autre chose et à se poser en tout cas les bonnes questions.
Le triple champion.
Ça a été le cas pour moi, pardon.
C'est moi, pardon, Alexis, le triple champion du monde de ski, invité exceptionnel du Stephen Brunch aujourd'hui. Sébastien Amier, est-ce que tu t'y attendais à cette annonce d'Alexis Pinturo?
Ouais, je m'y attendais un petit peu. C'est vrai qu'Alexis le dit très bien. Il a fait des efforts pour revenir au plus haut niveau après deux grosses blessures. C'est pas facile de laisser de l'énergie comme ça. Il y a eu la période des Jeux, la non-sélection des Jeux aussi, qui ont peut-être fait mûrir cette décision. Je m'attendais pas forcément non plus, puisque l'année prochaine, il y a quand même une année à championnat du monde. Je me suis dit, peut-être en ayant fait tous ces efforts pendant deux ans, c'est pas les Jeux, mais ça peut finir aussi sur des championnats du monde en Suisse, à Crans-Montana. Mais en tout cas, Alexis, on revient sur ton parcours qui est exceptionnel. Tu as marqué de ton empreinte le ski mondial, le ski français. Tu restes le GOAT du ski français. Moi, je tiens à te féliciter pour tout ce que tu as apporté à l'image du ski. Sur la partie, bien sûr, sur les skis au pied, mais à côté du ski, où tu as toujours eu une image dans les durs moments comme dans les bons moments, su répondre à toutes les interviews, aux questions auxquelles les journalistes s'attendent. Et tu as toujours été vraiment professionnel avec nous, en tout cas sur RMC, mais avec tous les journalistes aussi. Ça, je t'en remercie, parce que c'est pas toujours facile dans les moments durs de répondre. Moi, je me souviens d'avoir dans les bras au championnat du monde à Saint-Moritz, qui était très dur pour toi, puisque c'était un moment
en 2017,
charnière, ouais. Avant que tu montes ta structure indépendante, exactement. C'était, je me souviens avoir discuté avec toi dans ton oreille, et puis tu nous as montré que derrière, c'était le Alexis Pinturo qu'on connaissait, ton heure elle est venue, t'as saisi ta chance encore plus, peut-être avec ta structure indépendante que tu as montée, c'était aussi ce passage obligé. Mais la question, ma question simple, ce sera. Alors, je viens de t'écouter sur Eurosport. Tu dis qu'allumer du verre, bah, c'est ce qui va manquer. Ça, on le sait, hein, quand tu es compétiteur comme tu l'as été. Mais je te rassure, maintenant, quand tu passeras la pelouse, bah, tu verras, tu tondras la pelouse et tu verras du verre. Et puis la vie est belle. Et puis la vie est belle aussi après le ski. Tu vas pouvoir profiter de ta femme, de Olympe, de ta famille. Et puis une nouvelle vie commence pour toi. Et tu as eu de la chance puisque tu t'es blessé aussi tardivement dans ta carrière, alors que beaucoup d'athlètes dans tous les sports arrivent à se blesser très jeune. Toi, tu as su échapper par par ta préparation physique, hein, la question qui t'a été posée aussi avant, parce que tu étais un monstre physiquement. Et ça, c'est pas que du hasard, c'était aussi montrer aux jeunes que tout se prépare, parce que les blessures, elles n'arrivent pas par hasard non plus. Et effectivement, toi, tu as su être un grand professionnel, te préparer pour ça et dans toutes les disciplines. Ça, c'est encore plus extraordinaire, puisque aujourd'hui, ce qui est dans une discipline, c'est déjà pas facile, mais toi, tu l'as fait dans toutes les disciplines. Et encore un grand chapeau à toi.
C'est gentil. Merci, Bastoun.
Ah, c'est une vraie déclaration d'amour de Bastoun pour Alexis Pinturo. On l'a senti très ému. Il le mérite, évidemment. Bah, tiens, je peux rebondir sur ce que vient de dire Bastoun. Alexis, justement, l'après-compétition, l'après-carrière, on le sait, on le voit chez de nombreux sportifs de très haut niveau. Il y a toujours ce besoin de revenir un petit peu au terrain. Est-ce qu'il y a une peur du vide quelque part pour toi?
C'est un grand moment de difficulté, je pense, dans une carrière ou dans une vie. Là, c'est plutôt une vie. Faut savoir qu'on consacre énormément de notre temps et de notre énergie dans nos objectifs sportifs. Et notamment dans le ski alpin, on doit hypothéquer presque systématiquement les études. Résultat des courses, on finit tous avec un bac et après le bac, il y a plus grand chose, quoi. Donc,
oh, tu ça, peux c'est... avoir ton émission comme si, enfin, t'inquiète pas, il a répondu. Hein.
Mais en tout cas, voilà, c'est quand même un moment où il y a beaucoup de questionnements, beaucoup d'incertitudes. Moi, je pense être un privilégié vis-à-vis de ça parce que je suis quelqu'un qui est intéressé de beaucoup de choses, qui aime s'informer, comprendre les choses. Et puis, en plus, on a une belle histoire familiale qui s'est construite et qui s'est construite à Courchevel. Donc, si je pouvais continuer là-dedans et aller aider ma famille dans ces projets, c'est un bel objectif pour moi à l'heure actuelle.
Et Alexis, ça veut dire que en 2030, pour les Alpes 2030, les Olympiques en France, il n'y a pas de rôle pour toi, il n'y a pas d'éventuelle implication pour toi?
En tant qu'hébergeur, si.
tu vas remplir la journée.
Il est pas fou.
Il va recevoir les RMC Sport Games, Steve. Bien.
Non, mais parce qu'en fait, il y a forcément déjà des consultations, des commissions, des gens qui sont un peu responsables aussi de tout ça sur les différents sites. Courchevel sera un site quand même relativement important, hein, entre le combiné nordique, une partie de l'alpin, du saut à ski. Et donc, c'est des questions qui sont extrêmement importantes sur des Olympiades comme celle-là. Et surtout en février. Février, on le sait, pour nous Français, c'est une période qui est extrêmement chargée. Et donc, ce sera des questions lourdes et qu'il faudra réfléchir, préparer. Et ça a été déjà un gros sujet pendant les championnats du monde de 2023, mais ce sera exacerbé pendant les Jeux Olympiques. Alors oui, il y a des villages olympiques de prévu, mais qui ne sont pas prévu pour toute la capacité, en tout cas sur le papier, quoi. Donc après, il y aura peut-être des rôles, mais ce sera plus de conseils. Mais je me vois pas jouer un rôle important dans les Alpes de 2030.
Et j'imagine que tu as eu le temps de retracer ta carrière et que toutes les interviews que tu as faites depuis hier on t'a posé des questions sur tes accomplissements. Il y en a un où tu disais que je pense à 2021 notamment, pour toi le Graal du skieur c'était le gros globe de cristal, parce que ça faisait parler la polyvalence du skieur. Tu l'as touché le jour de tes 30 ans d'ailleurs, il me semble, à Lanzarote en Suisse. Est-ce que c'est un souvenir particulier pour toi?
Oui, c'est le souvenir peut-être le plus fort, avec mon titre de champion du monde ici à Courchevel, donc à la maison. Ça a été les deux grands moments d'accomplissement où en fait, quand on réalise des objectifs aussi grands et aussi puissants, on se sent comme en paix. On a l'impression qu'on a touché du doigt un rêve, et ce rêve se concrétise, et du coup on a l'impression d'être dans une période de plénitude absolue. Et ça a été le cas donc pour ces deux objectifs, le gros globe en particulier, étant donné que pour nous skieurs c'est ce qui est le plus difficile à aller chercher.
On n'échange pas un gros globe avec un titre olympique?
Non. Non. En initié professionnel, quelqu'un qui connaît son sport, qui aime son sport, et il n'échangera jamais les Jeux Olympiques pour le gros globe de cristal. Après, ça n'empêche pas que les Jeux Olympiques sont un événement qui est extraordinaire. Gagner des médailles sur cet événement, c'est quelque chose de magnifique, encore plus quand c'est l'or. Mais un gros globe de cristal, en fait, il faut aussi s'imaginer que le ski alpin, c'est l'un des rares sports où les meilleurs mondiaux sont là du début jusqu'à la fin, à chaque épreuve, à chaque Coupe du Monde, et il n'y a personne qui se désiste au cours de la saison. Donc sur les Jeux Olympiques, quand on prend l'exemple des derniers là à Bormio, dans les 30 meilleurs mondiaux, on doit avoir que 20 des 30 meilleurs mondiaux qui sont sur la liste de départ, à cause des quotas, à cause de différentes règles. Donc il y a moins de niveaux sur les Jeux Olympiques, par exemple, que sur une Coupe du Monde de classique au sein de l'hiver.
C'est la réalité d'une journée, j'imagine, alors que le globe de cristal, c'est vraiment le meilleur forcément qui gagne, en fait, c'est ça?
Oui, et en plus, bon, les Jeux Olympiques, c'est ça qui est beau, hein, c'est-à-dire que tout peut se passer parce que c'est sur une épreuve d'un jour, et il peut y avoir bien sûr des grandes surprises, mais aussi les grands favoris qui gagnent. Et donc là, c'est ça la beauté des Jeux Olympiques, c'est que en un coup, il y a beaucoup de choses qui se passent. Et par contre, quand on gagne le gros globe, là, c'est sur un ensemble de saisons. Il y a aucune surprise possible. C'est le meilleur, c'est celui qui arrive à être le plus régulier, qui arrive à le plus gagner dans la saison. S'il ne gagne pas, il doit être dans le top 5 ou le plus régulièrement sur le podium. Et ça, c'est quelque chose qui se construit, et il peut pas y avoir de hasard du tout pour un vainqueur de gros globe.
Alexis Pinturault, le monument du ski français, l'une des plus belles vitrines, l'un des plus beaux palmarès, c'est l'invité exceptionnel de Stephen Brunch. Stephen, juste avant, une petite question quand même de Léna Marjac, parce que c'est aussi grâce à elle que cette interview est réalisable en direct de Courchevel. Léna, tu avais une question pour Alexis Pinturault.
Oui, on parlait justement du palmarès d'Alexis, et vous pouvez pas le voir, mais depuis tout à l'heure, Alexis tient une paire de skis dans ses mains qui a été faite par son équipementier. Au-dessus, eh bien, il y a tout son palmarès, ses globes, ses podiums et ses victoires en Coupe du Monde, ses médailles aux Championnats du Monde et aux Jeux Olympiques. Alexis, quand tu regardes tout ça, est-ce que tu as conscience de l'empreinte que tu vas laisser dans le ski alpin mondial, mais aussi français?
On se dit surtout que quand on voit ça, finalement, ça se résume à pas grand-chose. Bon, et les lignes, elles sont nombreuses, mais bon, ça se résume à pas grand-chose. Voilà, à une phase de ski, quoi. Ouais. Mais moi, ce que je vais surtout retenir, c'est toutes ces émotions, le partage de ces émotions, le partage avec les médias, le partage avec la fédération, mes entraîneurs, ma famille, mes partenaires, les supporters. Et en fait, c'est ça qui permet d'être épanoui, heureux, de ressentir que ce qu'on a fait, ça a été quelque chose de bien. Je ne suis pas forcément conscient de l'impact que j'ai pu avoir sur le ski de manière générale et le monde de la montagne, mais parce que c'est quelque chose que j'ai du mal à mesurer personnellement. Mais je suis par contre très fier et heureux d'avoir pu nouer des liens, tisser et créer des vocations pour les plus jeunes, et en même temps, si je le peux, de la meilleure des manières, porter un peu au moins les montagnes françaises.
Oui. Alexis, j'ai l'impression qu'il y a eu deux Pinturault dans ton relationnel, notamment avec les médias. Moi, je crois que j'ai connu le bon Pinturault, celui qui venait au Moscato Show, qui était souriant, avec qui on pouvait discuter. Mais j'ai l'impression que jusqu'à tes 26, 27 ans, t'étais pas le garçon le plus ouvert. C'est souvent les anciens de la rédac qui disent, Pinturault, quand il était plus jeune, c'était plus compliqué avec lui, le relationnel médiatique. T'avais un peu ce côté, tu pouvais paraître un peu arrogant. Qu'est-ce qui a fait cette bascule, toi, dans ta carrière avec les médias?
Bon, je pense qu'à 26 ans, je commençais à avoir un palmarès qui était plus important, et donc on me considérait moins comme arrogant quand j'ai gagné une course. Mais il y a eu une grosse différence. C'est surtout dans quand j'étais jeune, j'ai été plus impacté par tout ça, dans le sens où ça m'est arrivé très tôt, très vite, l'impact médiatique, donc le fait d'être mis un peu en avant, le fait d'être un peu rapidement mis comme le leader de l'équipe de France, ça m'est un peu tombé dessus rapidement, et ça j'étais pas forcément prêt. J'ai dû l'appréhender, ça a mis un peu de temps, j'avais eu un peu plus de difficultés avec ça, parce que aussi mon caractère d'origine est quelqu'un qui est un peu plus réservé, un peu plus en retrait, et forcément c'était moins évident de jouer avec le le rôle ou ce jeu médiatique où il faut apprendre à être à l'aise avec ce qu'on dit, il faut être à l'aise aussi avec les personnes et en fait il faut surtout comprendre que on a besoin des uns et des autres. Et ça, c'est ça. Il faut un peu plus de maturité pour aussi l'appréhender et le comprendre. Ouais.
Merci beaucoup, merci Alexis. Bonne journée.
Merci Alexis.
Eh oui, c'est déjà fini pour cette semaine. Merci à tous d'avoir écouté le Stephen Brunch. On se donne rendez-vous dimanche prochain de 13h à 15h pour un nouveau best-of du Stephen Brunch.
RMC, 13h-15h, les meilleurs moments de Stephen Brunch.